When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Eh bien, bienvenue à cette nouvelle réu de rédaction, Judith et Alexandre.
Hello.
Salut Antoine.
Bon bah comme vous le savez, Barbie continue de cartonner au box-office. Et justement, ça mérite un peu qu'on s'attarde sur le phénomène et sur tout ce qui l'entoure. Et franchement, c'était déjà très intéressant de revenir sur la carrière de Margot Robbie. Et du coup, je pense qu'on a tout intérêt à en appeler à notre Kennergy, comme le disent les Américains, en analysant la carrière de l'autre grande star du film, qui est bien évidemment Ryan Gosling. Parce que mine de rien, on pense souvent à Drive, on pense à La La Land. Mais finalement, en fait, Ryan Gosling, il a quand même une filmo assez dingo. Et surtout, je pense à un rapport à l'acting assez particulier et plus bizarre qu'il n'y paraît derrière le côté grande star de cinéma aujourd'hui assez incontournable. Et donc Judith et Alexandre, si vous êtes là avec moi aujourd'hui, c'est que c'est vous les Ryan Zouz d'écran large. Et en fait, avant qu'on démarre un peu pour essayer de tisser des idées, des angles d'attaque pour parler de Ryan Gosling et de rentrer un peu dans le détail de sa carrière, j'avais envie déjà de savoir un peu c'est quoi votre premier rapport avec Ryan Gosling. Ça a été quoi votre premier souvenir avec lui, Judith, peut-être pour commencer.
Alors moi, ça s'est passé, ça a été le coup de foudre. Hein. Ça s'est passé au fin fond de mon adolescence. je zappais à la télé tout simplement et à un moment donné, je tombe sur le début de Stay. Et en fait, je vois Ryan Gosling à l'image et vraiment, je me dis mais c'est incroyable, c'est l'homme de ma vie. Tel que... mais je veux dire, tu sais, cette sensation de voir en vrai un visage que t'as toujours imaginé, tu vois, genre j'étais vraiment genre le temps s'est arrêté. Enfin bref, oh mon dieu. Et donc j'ai regardé le film, je dis oui, effectivement, c'est l'homme de ma vie. Et donc alors le film vaut ce qu'il vaut, on en reparlera. Mais peu de temps après, du coup, parce que c'était au moment où Drive allait bientôt sortir, je lisais déjà des magazines de cinéma et donc la promo a commencé à se faire pour Drive et j'ai été super hypé et c'est suite à la sortie du coup plutôt de Drive que j'ai compris que ce crush de surface c'était pas que des hormones mais c'était aussi une belle histoire d'amour de cinéma finalement et qu'il y avait plus dans Ryan Gosling que simplement une belle gueule.
Ouais, t'essaies de remettre Drive en avant mais on sait que c'est Stay du coup, d'accord, c'est très bien.
Ouais.
Et toi Alexandre?
Moi c'est Stay, c'est-à-dire à partir du moment où elle s'est dit que c'était une belle histoire de cinéma. Non, moi, c'est Drive, du coup. J'ai commencé le cinéma, à m'intéresser au cinéma assez tard. Donc, j'ai même pas vu Drive au cinéma. Mais.
Pas un vrai cinéphile, en fait.
Et non, c'est
un truc.
Non, voilà. Mais du coup, j'ai découvert Drive parce que je me souviens qu'au lycée, c'était vraiment un phénomène où tout le monde disait venez, on va voir ce film au cinéma. Et moi, je m'en foutais complètement. Donc, voilà, quoi. Mais c'était Drive. Je m'en souviens très bien. Tout le monde voulait aller voir Drive parce que. Gars dans la voiture et tout. Enfin, je pense que la promo du coup était trompeuse pour l'époque, mais de fait, tout le monde était à fond. Et donc, moi, je l'ai découvert plus tard et je me suis dit, waouh, ok, j'aime bien. Et c'était l'époque où je découvrais beaucoup, beaucoup de films. Donc, ça doit être 2013-2014. Et donc, j'ai découvert Ryan Gosling à ce moment-là, sans pour autant avoir l'envie de me dire, waouh, quel acteur, quoi, mais plus découverte de Cinoche, découverte de Refn, tout ça.
Ouais, moi, c'était un peu la même période. Je commençais à m'intéresser au cinéma au début des années 2010. Et donc, je commençais à suivre des trucs plus de Cannes, ce qui pouvait arriver à ce moment-là. Mais bon, Drive, c'était aussi rassurant. C'est un film américain, voilà, tu te dis, mec dans une bagnole et tout, c'est effectivement assez rassurant. Mais je me souviens en avoir débattu avec des potes qui étaient allés, justement, comme tu le dis, mais en se disant, ça va être un Fast and Furious-like, en fait. Et est-ce que la promo avait vraiment accentué à l'époque, ce qui était... Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une meuf qui a porté plainte à l'époque, hein, qui avait, en disant que la promo était tellement mensongère qu'elle demandait à se faire rembourser son ticket de cinéma. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, ça avait été pareil. Le coup de foudre, surtout avec le film en général, mais comme tout le monde, je pense, comme n'importe quel ado qui voit Drive, tu te dis « Oh, mais c'est trop bien, c'est trop profond comme film, c'est trop génial !» Et lui, là-dedans, était tellement incroyable et prenait tellement de la place et arrivait à tellement se marquer à l'image que, de toute façon, à ce moment-là, c'était méga coup de cœur.
Oui, mais il y avait, je sais pas, le charisme, cette veste, en fait, tout. Mais même l'intro, moi, vraiment, l'intro, je la trouve magnifique quand il est dans la voiture, qu'il attend. En fait, c'est vraiment hyper millimétré. Je me suis dit, ok, je suis à fond.
Oui, c'est ça, c'est totalement ça.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu cliché de dire que Drive, c'est vachement bien, qu'on adore ce film et tout. Oui. Comme tu disais, quand on écoute ça à dos et tout, mais moi, je trouve vraiment que c'est un très grand chef-d'œuvre. Enfin, vraiment, je veux dire, je sais galvauder de le dire, mais c'est le cas.
Ah, mais je pense que c'est un peu le cliché aussi de ces films-là où quand. Surtout pour des adolescents qui ont pu découvrir ces films-là. Je pense que tu vois, des Tarantino, des Nolan ont un peu ce même effet où, du coup, tout le monde est là à dire maintenant non, mais bon, ok, Inception, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. Et tu fais en fait, si, c'est vachement bien. Au-delà du fait que ça a pu te parler étant ado, c'est des grands films. Et c'est vrai que Drive, ça fait un moment que je l'ai revu, mais je sais qu'à chaque fois que je le revois, je me dis ah non, quand même, Winding Refn est l'humain qu'on connaît et l'espèce de mégalo horrible qui en plus te dira que pour lui, c'est évidemment un chef-d'œuvre, mais tu fais en même temps, sur ce cas-là, il a pas complètement tort.
Y a-t-il un docteur dans la salle, comme dirait
William.
Mais en même temps, c'est intéressant parce que par rapport à ce que tu dis là aussi, et notamment par rapport à ta découverte de Stay, c'est vrai que Ryan Gosling, on le voit de manière un peu cliché aussi comme le sex symbole hollywoodien, comme quelqu'un qui aussi s'est démarqué par cette grande beauté et ce charisme assez naturel. Mais en même temps, ça me paraît assez réducteur de le dire. Et j'ai l'impression aussi qu'il a exploré tellement de trucs différents. Et aujourd'hui, avec Barbie, ça le prouve, c'est que tout le monde a trouvé que c'était une évidence qu'il joue Ken dans Barbie. Et moi, je me dis que c'est peut-être ça aussi qui, moi, m'intéresse le plus et qui mérite un peu d'être creusé. C'est finalement que Ryan Gosling, au-delà d'être le mec de cinéma aujourd'hui, c'est finalement un mec qui a un rapport à la masculinité à travers les rôles qu'il choisit qui est plus ambivalent qu'il n'y paraît par rapport à l'idée qu'on se fait aussi des personnages masculins hollywoodiens.
Mais c'est-à-dire qu'il n'a pas, interprété finalement de héros d'action ou de héros très virils, très masculins, sans qu'il y ait une face très très sombre à ces héros-là. Quoi. Enfin, je veux dire, tous ces héros masculins, enfin masculins virils, on va dire, comporte une très très grosse part de critique justement de cette masculinité, donc c'est ça aussi, je pense, c'est ce regard critique qui a fait que c'est pas si simple, que c'est pas un Jason Statham, quoi, et il c'est sûr, et il dégage, non mais je veux dire, c'est même pas un Tom Cruise, quoi, parce qu'il y a vraiment toujours un regard hyper cynique, je trouve, de la part de ces films là sur ce type de personnage, et c'est quelqu'un qui, je pense à ça parce que du coup j'ai regardé l'un de ses films récemment avec ma mère et elle me disait, et je trouve qu'elle a tout à fait raison, que Ryan Gosling, il dégage une aura, quelque chose, en fait on sent une intelligence de sa part, et c'est a priori quelqu'un d'intelligent, enfin en tout cas moi je trouve que c'est souvent intelligence qu'il dit, et en fait tu sens qu'il apporte une profondeur vraiment à ses rôles, quelque chose de complètement différent qui est pas forcément dit dans le film, pas forcément dans les dialogues, mais qui est vraiment une épaisseur qui est pas si évidente et qui l'apporte naturellement, quoi.
Et c'est marrant que tu dis ça parce qu'en plus l'un des premiers faits importants de sa vie et soi-disant l'un des premiers amours de cinéma qu'il a eu, c'était justement le premier Rambo. Et quand il était gamin, à tel point que, et ça lui a valu d'être viré de l'école, il s'est ramené, il était tellement obsédé par le personnage qu'il se ramenait à l'école avec des couteaux de cuisine qu'il jetait sur ses camarades comme dans le film. Ce qui lui a valu évidemment d'être renvoyé et ce qui a fait d'ailleurs plus tard, il a plutôt fait de l'école à la maison avec ses parents. Mais c'est amusant que tu vois, ça soit l'un de ses premiers rapports au cinéma, ça soit celui-là, pour finalement que tout de suite après, quand lui il se retrouve au cinéma, il déconstruise un peu ça à travers ces personnages-là, effectivement, qui, moi je trouve, y compris dans des films comme Drive, qui montrent des personnages extrêmement pointilleux, millimétrés dans ce qu'ils font, il y a toujours derrière la façade qu'ils se fabriquent, justement, et tu sens qu'ils se fabriquent eux-mêmes une façade derrière l'acteur qui lui-même en crée une, il y a une fragilité énorme qui se révèle petit à petit et que je trouve souvent très intelligente dans sa manière de faire.
Ouais, mais même pour par rapport à ce rapport particulier à la masculinité, ça peut aussi avoir un lien. Ce qu'il raconte souvent en interview, c'est que déjà ses parents sont devenus mormons parce qu'ils se sont fait embrigader, donc ils sont devenus mormons. Donc déjà, l'éducation particulière au niveau de la religion. Ensuite, ses parents ont divorcé, donc il a vécu seulement avec sa mère et sa sœur. Et il dit que vraiment ça l'a forgé à vivre avec des femmes et à comprendre leurs problématiques, en fait. Ce qui, du coup, forcément, change son rapport à la masculinité, je pense, bien plus que beaucoup de gens. Et par rapport à ce que tu disais sur la manière dont il agissait quand il était encore plus jeune, avant toutes ces histoires de divorce, ou en tout cas qu'il comprenne un peu plus ce qu'est être un homme, ce qu'est être une femme, il disait souvent qu'il aimait bien les bad boys un peu à l'école, dans le sens, il disait, les meufs, elles adorent les bad boys, quoi. Et donc forcément, moi, si je tabasse un bad boy, ça veut dire que je suis plus fort qu'un bad boy. Donc les meufs, elles vont m'adorer. Donc il essayait de faire ça.
Avec des couteaux de
cuisine. Il essayait de faire ça, avec probablement des couteaux de cuisine, potentiellement. Et donc ça marchait pas forcément. Mais du coup, ce qui lui a valu quand même le surnom de Mr. Trouble, voilà, à l'école. Donc monsieur troublé, monsieur le fauteur de troubles plutôt, d'ailleurs, en français.
Donc, une belle traduction.
Non, monsieur troublé, c'est après Drive.
Ouais, tu vois, et c'est amusant parce que là, en faisant un peu des recherches et surtout face au succès énorme de Barbie, il y a quand même pas mal de trucs qui semblent ressortir là-dessus. Et il y a notamment un truc, moi, qui m'amuse beaucoup, c'est les gens s'amusent limite à créer des mèmes autour de Ryan Gosling, et ça fait un paquet d'années déjà que c'est le cas. Mais là, il y en a un en particulier qui ressort pas mal, c'est justement je suis Ryan Gosling. C'est genre, Ryan Gosling fait des trucs parfois assez improbables dans ses films, et justement, il reste une star qui est méga sexy, qui est au-dessus de nous, j'ai envie de dire, qui reste un glamour de
une
cinéma.
Une divinité, finalement, oui.
Voilà, on peut le dire comme ça. Mais qui, en même temps, a quelque chose d'immédiatement compréhensible. Et tu peux immédiatement t'identifier à ce qu'il vit et à ce que ses personnages vivent, y compris quand ils semblent être totalement en dehors de la réalité. Et que cette blague-là, tu vois, c'est limite de dire bah, « Moi aussi, je conduis comme Ryan Gosling dans Drive, mais en fait, non. » Tu vois, ou des trucs comme ça. Mais de se dire, il y a effectivement voilà, cette immédiateté dans ces personnages qui peut être assez intéressante.
Ouais, mais c'est vrai qu'il nous inspire, ou en tout cas, il représente un petit peu la version la plus cool et la plus glamour de choses qu'on peut faire nous, quoi. Alors évidemment qu'on n'est pas vraiment Ryan Gosling, mais ouais, le côté je suis Ryan Gosling, c'est le plaisir de reconnaître un peu cette classe et cette intelligence et ce style qui dégage dans nos actions du quotidien, quoi.
Ouais. Et c'est peut-être intéressant, du coup, de revenir dès les tout débuts. Du coup, t'en parlais un peu, Alex, mais son premier grand rôle, c'est The Believer, ou plutôt Danny Balint en français, donc qui est sorti en 2001. Et qui est un film assez particulier parce que moi, j'avoue, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, ok, donc il incarne un néo-nazi, donc histoire d'avoir un premier rôle qui envoie du lourd. Et avec le twist entre guillemets de celui-là, c'est qu'il incarne un néo-nazi qui, il s'avère, a des origines juives et en fait qui est basé sur un vrai mec qui a vraiment existé qui s'appelle Daniel Burrows, et donc qui était vraiment membre du parti nazi américain et qui s'est suicidé après que le New York Times a révélé que il avait des origines juives, ce qu'il a pas vraiment supporté. Et là, sans arriver au même point totalement, le film, donc, qui est réalisé par Henry Bean, joue un peu sur la même base où justement il se fait interviewé d'ailleurs par un mec qu'il rencontre qui comprend pas trop et qui est assez fasciné par ce personnage là et lui, tu sens qu'il a ce truc assez passionnant où il est tiraillé par son passé, qui est d'ailleurs reflété par le film de il a fait l'école judaïque, il a un respect aussi des traditions judaïques, mais en même temps il a une haine profonde des juifs une sorte de glorification du Troisième Reich et d'Hitler qui est assez improbable.
Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est un rôle, enfin c'est vrai, comme tu dis, comme un premier grand rôle, c'est tout de suite, genre, tu poses les bases de... Il y a un peu le côté démonstration de « je vais vous montrer que je suis déjà, à l'âge que j'ai, un grand acteur qui est capable de faire des choses dures, des choses subtiles, etc. » Et ça marque finalement un peu le type de choix qu'il va faire par la suite, au moins dans sa jeunesse, dans la première partie de sa carrière, parce qu'il va prendre un chemin totalement différent de ce à quoi aurait pu lui promettre ses tout débuts au club Mickey. Et Danny Balint, c'est un film qui est pas mauvais mais qui est un peu anecdotique, enfin c'est pas un grand film, on va dire, c'est pas mal, mais en fait il vaut surtout finalement pour sa prestation, quoi.
C'est marrant parce que les critiques de l'époque ont toutes mises en avant, parce que le film a quand même gagné le Grand Prix à Sundance, mais je pense que le sujet prévaut sur l'exécution finalement dans ce genre de cas.
Oui.
Mais que les critiques soient positives ou négatives, tout le monde a vraiment dit c'est lui qui porte le truc, et c'est vrai d'ailleurs. Moi je trouve le film, je suis assez d'accord avec toi, assez bêtement illustratif sur son sujet. Tu sens qu'il aborde pas vraiment un point de vue que je trouve très fort sur la question, mais en fait comme il se concentre vraiment sur lui et que c'est lui qui porte le truc, quand il te fait des grandes séquences de dialogue pour finalement juste lui en champ contre champ avec quelqu'un d'autre, ça marche super bien en fait.
Ouais, mais c'est ce que disait le réalisateur aussi à l'époque, c'est qu'il a choisi Ryan Gosling pour une raison, donc c'était par rapport aussi à son éducation mormone d'une certaine manière, parce que le fait qu'il ait été éduqué dans une religion potentiellement un peu pointé du doigt, etc., a pu lui faire comprendre ce qu'était une forme de solitude religieuse, potentiellement que tu peux avoir envie de rejeter. Donc bon, là, dans un extrême assez violent, puisque quand t'es juif et néo-nazi, c'est quand même un peu
C'est un oxymore, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est... Voilà. Donc, c'est vachement intéressant de voir que, d'une certaine manière, dès le début de sa carrière, tu sens que lui-même a un rôle à jouer dans ses propres rôles, ou en tout cas, la manière dont il a grandi, dont il a été éduqué, va avoir un rôle à jouer dans sa carrière, dans ses choix de carrière, etc.
Oui, et le dilemme que ressent le personnage, tu sens que c'est presque lui aussi ce qui, en tant qu'acteur, à ce moment-là aussi, le tiraille dans sa vie perso aussi. Et tu vois, d'ailleurs, bon, pour relier à cette question-là, finalement, de ce rapport à la masculinité, je trouve ça assez passionnant, et je sais pas à quel point c'est dû au scénar, et que c'est peut-être ça qui l'a attiré vers le projet, ou si d'ailleurs, tu vois, c'est aussi lui qui a amené ça, mais il y a une des séquences majeures dans le film, finalement, c'est la première fois justement qu'il rencontre le journaliste du New York Times avec qui il a un entretien, et le mec le piège totalement en lui posant les questions qui fâchent, et le mec se laisse totalement emporter, et où justement, en fait, cette question d'antisémitisme, elle est déjà liée à une question de masculinité très incertaine, finalement, où il te montre que tous ces mecs-là, c'est aussi, bon, bah, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des incels, mais aussi, il t'explique que ils détestent les juifs parce que les juifs sont finalement ont quelque chose de trop féminin, en fait. Enfin, il y a ce truc là où justement sa propre insécurité de mec ressort à travers son antisémitisme, et tu sens que c'est vraiment quelque chose qui va un peu porter sur le reste de sa filmographie.
Bah, il y a cette question, c'est ce que tu dis, la scène elle est vraiment impressionnante, enfin impressionnante en tout cas dans le Gosling, il est encore une fois, enfin déjà plutôt j'ai envie de dire, dans une intériorité qui va petit à petit exploser, enfin finir par exploser vis-à-vis de l'intervieweur, parce que bon, pour spoiler, il va quasiment, enfin il va lui mettre un flingue sur la tempe en lui disant tu continues, je te bute. Bon, globalement la petite interview sympatoche tourne au vinaigre, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu disais par rapport à cette question de plus que de masculinité, c'est aussi une question de toxicité, mais sexuelle, ouais, aussi, parce que il y a vraiment cette idée de l'homme viril, comme les masculins pourraient le décrire, c'est celui qui domine tout simplement tout, en fait, l'acte sexuel, comme la relation, comme etc. Et donc le juif, entre guillemets, dans comment ils le décrivent en tant que néo-nazi, c'est au contraire quelqu'un qui potentiellement se laisse dominer et aime se laisser dominer, donc ce qui ne correspond pas du tout au standard masculin de ces masculins. Ouais. Mais c'est super intéressant, en vrai, je suis d'accord avec toi, qu'il y a un vrai lien par rapport à il y a un vrai fil conducteur, quoi. Tu sens que dès le début, c'est pas anodin de faire des choix comme ça, je crois.
Et ce que tu dis, c'est aussi très juste, je trouve, sur le... à quel point cette intériorité qui boue petit à petit, ouais. Tu vois, il y a vraiment un bouillonnement, tu sens qu'aussi pour un premier grand rôle comme ça, moi ça m'a pas mal fait penser à une énergie que pouvait avoir un Tim Ross en début de carrière, et notamment quand il faisait un Made in Britain dans lequel lui aussi jouait un néo-nazi. Je trouve vraiment que, je pense qu'à l'époque d'ailleurs, les gens ont pas mal fait le lien entre les deux, et plus tard avec American History X, évidemment.
Bah oui, clairement, c'est vrai que je te coupe, mais quand j'ai vu The Believer, je me suis dit c'est American History X2, en fait, quoi.
Mais c'est marrant que tu parles de... Tu dis c'est intéressant comme choix. Et on pourrait se dire qu'un acteur à cet âge-là, c'est pas tellement une question de choix, mais qui prend ce qui vient.
Oui.
Et c'est pas son cas, c'est vraiment un choix. Et un choix étonnant. Parce que donc, du coup, avant, comme je le mentionnais un peu plus tôt, il faisait partie de la promo du Mickey Club, The Mickey Mouse Club.
Oui, il était un mouse cutier.
Yeah. Wow. Yeah. Où il tournait des sortes de sketchs pour les enfants, des trucs absurdes, mais donc il était vraiment gamin. Et donc, il faisait partie de cette promo dans laquelle il y avait aussi Justin Timberlake, Britney Spears et Christina Aguilera. Et c'est vraiment le genre de d'écurie, on va dire, où on entraîne les petits américains à être des sortes de singes de singes savants, où ils chantent, ils dansent, ils jouent, ils savent tout faire, quoi. Donc effectivement ils savent tout faire, mais voilà, évidemment qu'il n'a pas du tout eu le même destin que les autres, quoi.
Bah ouais, surtout que bon, enfin finalement je trouve que c'est amusant quand tu compares à Justin Timberlake, Britney Spears et Christina Aguilera, qui surtout en plus ont très vite, et c'est souvent le cas des stars Disney comme ça, soit cherchent très vite à faire un truc un peu, enfin, bad boy mais un peu vulgaire, tu vois, pour se démarquer, justement, côté, tu passes de Disney à MTV un peu, tu vois, c'est un peu cette transition là là où Gosling c'est pas tellement permis ça. Alors en même temps, au début, le pauvre, il a pas eu trop le choix, puisqu'il s'est retrouvé, il fallait qu'il bosse, donc il s'est retrouvé sur la série Young Hercules, où il jouait du coup un jeune Hercule avec un fond de teint pas possible et une coupe de cheveux blonde. Ah ouais, mon dieu, horrible, quoi. Et il le disait, en fait, que finalement il a eu le choix, mais surtout c'est Henry Bean qui est venu le chercher pour The Believer, en lui disant qu'il le voulait, lui, justement à cause de ce passif là, il voulait prendre quelqu'un de, un peu de ce background-là aussi pour l'amener dans un autre type de performance. Et il le dit lui-même que si c'était pas arrivé, si Henry Bean l'avait, enfin, il aurait jamais eu une audition en temps normal pour un rôle comme ça après ce qu'il avait fait à Mickey Mouse Club et Young Hercules. Et qu'en fait, s'il avait pas eu ce rôle-là, il serait clairement pas l'acteur qu'il est aujourd'hui. Donc il estime que c'est une très très grande chance qu'il ait eu ce rôle-là.
Ouais. Bon, en tout cas, il avait un bon gros crush sur Britney Spears et ça n'a jamais marché.
À sortir avec Justin Timberlake,
ouais,
qui était son colloque du coup.
Oui. Oui, c'est comme il est canadien d'origine du coup et que sa mère devait repartir bosser au Canada. Mmh. Du coup, la mère de Justin Timberlake est devenue temporairement son gardien légal pour qu'il puisse rester en Californie pour pouvoir tourner Mickey Mouse Club. Et du coup, ils étaient en colloque pendant 6 mois avec Justin Timberlake.
Ça devait être la folie. Ça devait danser partout.
Bah, il chantait, ça dansait.
C'était Barbie-Land.
Il paraît que la mère de... Il paraît que la mère de Britney Spears n'aimait pas du tout Ryan Gosling parce que justement, comme tu disais, c'était le fauteur de troubles.
Mais
et
oui.
Donc, il faisait de sa fille une bad girl.
Mais il y a des... En tout cas, j'ai lu vite fait. Après, qu'est-ce qu'il en est ou pas? Je n'étais pas là à cette époque. Mais il s'avère que monsieur avait les réponses à peu près tout ce qu'on pouvait se poser à cet âge-là, apparemment.
Ah.
Et donc, les filles venaient lui poser des questions, évidemment. Ah. Et voilà. Donc,
c'était le moment ragot de cette réunion. C'est merveilleux.
Après, parfois, les mecs à cet âge-là, ils disent qu'ils ont les réponses, puis en fait, tu t'aperçois qu'ils inventent, mais oui.
C'est possible, c'est possible.
Bon, en tout cas, du coup, c'est vrai que Danny Bellin, ça lui ouvre des portes. Et ce qui est assez amusant, c'est bon, les choix ou contraintes qui se donnent plus ou moins pour quand même continuer de bosser derrière. Et bon, la suite n'est pas forcément aussi géniale. Même si Judith pourra prétendre le contraire, mais ce qui est assez amusant quand même, c'est qu'on sent qu'il se tourne quand même vers des personnages qui, dans la ligne d'Danny Balin, sont quand même un peu border,
ouais.
Ou au moins ont ce côté un peu espiègle malin, mais qui souvent sont quand même liés à des trucs un poil psychopathes sur les bords, et c'est notamment le cas en 2001 avec Calcul meurtrier.
Oui, alors. En fait, même juste avant, je trouve il y a The Slaughter Rule. Bon, alors, je trouve que c'est un film un peu OSEF, voilà, complètement qui sert à rien. Mais en gros, il joue un jeune garçon qui est un peu perdu parce qu'il a perdu son père est mort, tout ça, et donc il cherche un peu. Et puis il y a un coach.
Ça, juste, il a perdu son père, tout ça.
Non mais bon, c'est oui. En effet, c'est triste. Je suis d'accord. Mais du coup, il est perdu, quoi. Il sait plus quoi faire trop. Il est ado, donc il sait plus. Il est perdu. Et il y a un coach, un entraîneur de football américain, qui décide de le prendre sous son aile. Et en fait, de se servir un peu du fait qu'il soit un petit bagarreur pour l'intégrer à une équipe de six-man football. Donc en gros, comprendre un football américain de street. Hein, donc vraiment, genre, pas vraiment de règles.
Un foot de rue, tu veux dire.
Oui, mais bon, là, on est en Amérique.
Un foot de street.
Donc c'est un football américain un peu plus violent, quoi.
D'accord.
Disons qu'il y a les
règles. C'est vrai que le football américain, c'était pas assez violent.
Eh ben non, parce que là, il y a des petits bagarreurs là-dessus. Donc le but, c'est de former. En fait, c'est de prendre leur violence, un peu leur haine, et de s'en servir pour qu'ils soient forts dans le football américain et qu'ils se servent de ce qui les anime, les détraque un peu mentalement pour physiquement aller chercher le meilleur d'eux-mêmes.
Exorciser un peu la violence.
Exactement. Donc, évidemment, c'est magnifique. Non, pas du tout. Mais, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dès ce rôle, on a un peu le jeu du petit jeune un peu perdu qui vient basculer dans potentiellement un peu de violence et donc, encore une fois, qui vient extérioriser ses peurs intérieures par quelque chose de violent qu'on retrouvera un tout petit peu plus tard dans des films comme Drive, par hasard. voilà. Donc, ce rôle est pas inintéressant. En plus, il dit qu'il a beaucoup appris avec l'acteur principal David Morse, etc. Et donc, juste après, en effet, il fait Calcul meurtrier.
Voilà.
Alors, Calcul meurtrier, donc c'est pas n'importe qui, hein, c'est Barbet Schroeder hein, qui le fait. Donc,
Elle comprend pas. Hein. pas compris.
Bon, moi, j'avoue que je trouve ça un peu sympa. Oh, donc, voilà. Donc, faut se dire que le pitch est quand même un peu marrant. C'est que c'est deux lycéens donc, qui sont joués par Ryan Gosling et Michael Pitt qui se disent un jour mec, est-ce qu'on commettrait pas le meurtre parfait juste pour s'amuser?
Vraiment le résumé des rôles de Michael Pitt.
c'est franchement vrai, ouais. Bon, bref, du coup, ils se lient d'amitié, ils se disent bon, ben, viens, on tue des gens pour gratos, histoire de s'amuser un peu. Et le but, c'est qu'on se fasse pas prendre. Mais pas de chance, en fait, il y a une super enquêtrice qui s'appelle Sandra Bullock. Enfin, en tout cas, elle est jouée par Sandra
Bullock. Comme l'actrice.
Exactement. Et du coup, en fait, elle va rapidement se dire tiens, c'est un peu bizarre. En plus, ces deux jeunes que j'ai interrogés, ils sont chelous et tout. Donc, elle commence à s'intéresser à eux, mais. en même temps ils cachent bien leur jeu quand même, hein, et tout.
Oui, puis ils ont trouvé le faux coupable parfait, donc au début ils se disent exactement. C'est bon, c'est tranquille.
Parce qu'ils ont tout prévu évidemment, ils se sont dit mais attends, mais si on fait croire que ça, machin, peut-être que nous on va passer à côté, puis comme ça on rigolera parce qu'on les a pris, on les a menés en bateau, mais évidemment ça se passe pas vraiment comme ça, et puis il y a Sandra Bullock qui est un peu plus intelligente, donc je trouve que c'est un peu amusant, mais du coup encore une fois on retrouve un Ryan Gosling, alors là c'est un peu côté foufou, là il part un peu dans le côté... un peu le côté je joue le petit dingo.
Bah surtout qu'il joue le mec qui vient de famille ultra bourgeoise, oui. Contrairement au personnage de Michael Pitt, c'est aussi l'un des paradoxes entre eux. Et c'est que lui, entre guillemets, il a... Michael Pitt, il a un peu rien à perdre, alors que lui, il a un peu tout à perdre. Et en même temps, c'est... tu sens qu'il se fait chier dans sa vie, et c'est un des trucs qui est joué à travers son personnage. Et donc, que, de toute façon, il a la belle bagnole, il peut visiblement ken un peu qui il veut, parce que de toute façon, c'est le bad boy du lycée, tout le monde le kiffe, machin. Ce qui est vraiment joué d'une manière méga cliché par le personnage. Et du coup effectivement, et surtout c'est lui qui drague plus ou moins Sandra Bullock, enfin qui joue d'un truc vraiment très ambigu que jamais fait Michael Pitt lui dans le film, donc c'est, il a le personnage un peu plus intéressant à jouer parce qu'il est un peu plus sulfureux que l'autre.
Mais oui, mais en plus c'est assez marrant de le voir quand ils viennent les interroger pour la première fois, et que du coup elle rentre dans le gymnase de l'école et qu'il y a Ryan Gosling qui attend parce que il sait qu'il va se faire interroger, et qu'il y a Sandra Bullock qui arrive avec son partenaire, enfin son coéquipier de travail, et que là il commence à la draguer en mode j'aime bien vos vêtements et tout.
Ce qui a visiblement marché, puisqu'après ils sont sortis ensemble.
Après ils sont sortis ensemble, donc sans doute qu'il est tombé un peu sous son charme.
Mais est-ce que Judith, toi, ça a marché sur toi?
Non, alors c'est vrai que Calcul meurtrier, non, j'en ai un souvenir vraiment de. Enfin, je veux dire, ça fait super cheap. Évidemment que moi j'étais contente de le voir pour lui, quoi, mais on n'y est pas, quoi, il n'y a pas beaucoup à manger.
Bon, après on va pas se mentir.
Il y a sa veste rouge de toute beauté qui annonce Drive là aussi quand même.
Ah oui. Non, la veste en cuir rouge, non, d'accord.
Alors moi je propose que Judith note toutes les tenues vestimentaires de Ryan Gosling au fil de sa carrière.
Un top 10 des meilleurs accessoires.
Non mais c'est sûr que ça reste une sorte de série B tendance un peu Z presque dans le sens où c'est un téléfilm de luxe.
Tu sens surtout que c'est la période où on ressort de Seven et que tout le monde se dit on va remixer notre petit Hitchcock illustré avec en mettant ça un peu moderne, tu vois, parce que là en plus c'est des ados donc c'est un peu sulfureux, tu comprends, et tu fais non, en fait ça l'est à aucun moment, et c'est d'une laideur surtout comme film.
C'est très 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 moche.
La photo est immonde et je trouve qu'il y a aucun rythme, surtout moi c'est Sandra Bullock qui est une bonne actrice, tu vois, mais là, elle a rien à jouer, la pauvre. Alors, parce qu'en fait, le parallèle qui est assez amusant, c'est que surtout qu'elle est ancienne femme battue, qui est un peu traumatisée, mais elle se construit dans la violence.
Qui a été retrouvée quasiment morte.
Oui, quasiment morte, oui, donc, c'est ça qui est terrible. Mais c'est du coup, elle rejette ses partenaires sexuels, notamment son coéquipier avec qui elle veut coucher, machin. Et le mec lui dit, mais de toute façon, t'es pas capable de t'engager, machin. Enfin, c'est vraiment le cliché, genre.
Non, mais c'est
horrible dans la structure
con,
du personnage féminin. Mais avec du coup, Ryan Gosling, en fait, qui est en mode, non, mais je te dragouille. Et justement, moi, j'ai compris ce que t'es vraiment. Moi, j'ai compris que t'es. Il y a un trauma, quoi, parce que moi aussi, je suis un peu fou dingue, quoi. Tu fais, ok, merci.
Donc, c'est vrai que c'est assez nul. Ouais. Mais un peu amusant, et lui il a un truc à jouer, encore une fois il est un peu dans le surjeu, c'est franchement pas son meilleur rôle, mais tu sens qu'il a envie de tenter des trucs,
oui, voilà,
et c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est que là pour le coup il a rien à intérioriser parce que justement il extériorise tout, il fait le foufou, bref il fait un peu le dingo.
Je propose qu'on fasse tous les synonymes possibles de fou dingue, foufou, mais en tout cas c'est vrai que même dans ses... de toute façon je pense que c'est un peu le truc qu'on peut tirer de ça, c'est que même dans ses pires films lui est toujours intéressant, en fait je pense que c'est un truc qui l'a aussi mené là où il en est aujourd'hui, c'est que de toute façon même dans une merde, si t'arrives à te faire remarquer, désolé, je signe, c'est une immonde merde, je me suis fait chier comme jamais, tu le remarques lui. Tu vois, et je trouve que c'est ça, et c'est pas juste parce que tu le regardes en te disant je le regarde parce que Ryan Gosling, mais tu le vois débarquer et tu fais ouais, c'est normal que mine de rien il en soit là où il en est aujourd'hui.
Oui, c'est ce qu'on disait, c'est que ce qui est intéressant c'est qu'il est face à Sandra Bullock qui a quand même fait pas mal de films quand même déjà en 2002, et il lui tient la dragée haute, quoi. Donc déjà c'est déjà pas mal,
et ça marche encore mieux après parce que du coup le film suivant c'est donc j'ai plus le titre complet, c'est Leland,
c'est The United States of Leland,
c'est
absolument
ça. Mais qui est en plus un film plutôt choral plus ou moins.
Ah oui, c'est totalement un film choral. Alors pour se faire une idée, il y a un casting monstrueux, hein. Il y a Ryan Gosling déjà, il y a donc dans les jeunes qui vont percer plus tard, il y a Michelle Williams, il y a Kerry Washington et il y a Michael Peña, mais il y a aussi Don Cheadle, il y a Jenna Malone aussi, il y a Martin Donovan, et il y a celui dont on ne peut pas prononcer le nom, mais qui a joué dans House of Cards. Voilà. Et donc,
Moi, j'allais dire Johnny Depp.
Il y en a trop comme ça. En fait.
Donc, en fait, non, il joue l'anti-héros éponyme. En gros, il joue Leland Fitzgerald. Et en gros, c'est un jeune ado qui poignarde un handicapé. et qui se retrouve emprisonné dans un centre de détention pour mineurs. Et donc, il va créer une relation avec le professeur qui va s'occuper de lui, qui est joué par Don Cheadle, donc, et qui va essayer de comprendre bah, pourquoi il a fait ça, etc. Et donc, en fait, il joue un... C'est ce qu'il dit dans, ce qu'il disait dans, une interview avec IGN à l'époque, c'est qu'il voulait, en gros... il a bien aimé ce rôle quand il a accepté le scénario parce que c'était un personnage un peu... Enfin, qui était émotionnellement déconnecté.
Tu m'étonnes qu'il a aimé le rôle s'il amenait des couteaux de cuisine à l'école quand il était petit.
Non, mais tu vois, encore émotionnellement déconnecté, comme quoi ses rôles le poursuivent. Et donc, c'était rare à l'époque de voir ce genre de personnage, en tout cas pour des ados, en tout cas. Et donc, ça l'a intéressé et il s'est dit que ce serait passionnant à jouer. C'est pas un grand rôle parce que c'est un rôle secondaire, c'est un rôle choral. Donc, en fait, le film ne suit pas forcément que lui et les raisons pour lesquelles il a tué... ce jeune handicapé, c'est plutôt toutes les conséquences sur la famille de la victime, sa famille à lui, parce qu'en fait, il faut savoir que la personne qu'il a tuée est en fait le frère de sa copine, qu'il a plus ou moins quitté, ou en tout cas, ils ont une relation compliquée parce que elle voit aussi un peu un junkie qui lui vend de la drogue, etc. Voilà, et puis il s'est fait tabasser par le copain de la grande sœur de sa copine, enfin bref.
Ça m'a l'air très compliqué tout ça.
Donc, c'est un petit film choral qui raconte un peu comment tout est lié. Voilà,
mais il arrive à tirer son épingle du jeu
mais
là-dedans.
Mais voilà, hein. il se fait un peu remarquer. Il a quand même le rôle titre, donc ouais. Forcément, on le remarque un peu plus que les autres. Mais encore une fois, bah, c'est cette idée de personnage qui a quelque chose enfoui en lui. Et même si là, il n'y a pas vraiment une forme d'explosion parce qu'on ne voit pas vraiment le meurtre. Mais on comprend plus tard que c'est pas par rapport à une forme de rage, mais plutôt par rapport à une forme de tristesse et de tenter de soulager.
Bah, ce qui ressort là aussi de Danny Bellint et même finalement un peu de Calcul meurtrier dans le côté, tu sens qu'il y a quelque chose derrière en fait, enfin que le meurtre au-delà de l'amusement vient de quelque chose de plus dark que lui a envie d'explorer, même quand le film le permet pas vraiment en fait, et c'est ça qui est assez pertinent. Mais après, t'en arrives quand même à donc peut-être le cas ultime de Ryan Gosling en mode émo-triste, un peu psychopathe sur les bords.
Mais crush ultime.
Et le crush ultime de Judith, c'est Stay.
Oui, Stay. Donc du coup, c'est en 2005 que le film sort. Il est réalisé par Mark Forster. Donc c'est quand même le mec à qui on doit Neverland, Quantum of Solace et World War Z. Donc
que des grands films.
Voilà, c'est ce qu'on peut retenir.
Du 7e art.
Non, mais c'est un film parce que du coup, Alexandre parlait tout à l'heure du fait que Ryan Gosling était capable de tenir la dragée haute à Sandra Bullock et à tous les autres acteurs de United States of Leland. Et ouais. Donc là, il est quand même face à Ewan McGregor, Naomi Watts et Bob Hoskins, entre autres. Donc gros casting. Et là aussi, je trouve qu'il s'en sort vachement bien. Alors juste pour replacer, donc, c'est l'histoire d'un psychiatre qui est donc joué par Ewan McGregor, qui va essayer d'aider l'un de ses jeunes patients troublés, voilà, un jeune homme de 20 ans, qui menace de se suicider dans 3 jours. Et au fur et à mesure que le personnage de Ewan McGregor va essayer de l'aider, enfin de comprendre un peu ce qui se passe dans sa tête pour l'empêcher de passer à l'acte. Bah, il y a des parallèles qui vont se dresser entre leurs deux vies. Il y a comment dire, les dimensions semblent se mélanger, le rêve et la réalité.
Des transitions fou entre les plans, c'est incroyable.
Ça, c'est, la réalisation est très stylisée, on va dire. Hein, les ralentis, oui, les superpositions.
Pour le dire très poliment. Les plans sauver débulés. Le seul truc que le film a au vu de son écriture la plus teubée possible. Mais...
Ah bah, il tente des choses en termes d'image. Hein.
Oui, écriture, pas n'importe qui quand même. Hein, rappelons-le.
Ah oh, mais oui.
Putain. David Benioff, un des showrunners de Game of Thrones plus tard.
Le film était censé être bien plus que ce qu'il est aujourd'hui, parce que effectivement, c'est David Benioff du coup qui, après que son roman donc appelé La 25e heure ait fait un carton, il s'est dit vas-y, j'écris un script. Il écrit donc son premier script, c'était Stay. Il le vend aux enchères et il est acheté en une journée par New Regency pour 1,8 million. Et donc là, les gens se disent oh mon Dieu, mais ça va être magique, ça va être incroyable, c'est le nouveau sixième sens et tout.
Oui, c'est vrai,
vraiment, vraiment. Et au départ, c'est David Fincher qui devait réaliser le film.
Comme quoi, ça aurait pu être un très bon film.
Mais non, mais totalement, parce qu'en plus, c'est logique, parce que Mark Foster le réalise comme un Panic Room / Seven, mais dans le style.
Ah bah oui,
c'est
sens
que c'est du Fincher illustré dans le clairement. Style. Ça fait tellement
dans la noirceur,
effet clip tout le temps.
Et au final, tu vois, bah, ça n'aura pas eu le succès escompté, parce que donc il a été produit pour 50 millions et il n'a rapporté que 8,5 millions. Donc, petit crash, léger crash.
Mais justifié, hein, parce que vraiment, je pense que là, pour en avoir rattrapé un paquet de ses films, c'est vraiment le pire film de sa carrière. C'est pas possible.
Ah non, quand même, mais c'est
infernal, Stay.
C'est vrai que c'est très, très mauvais. C'est vrai que
c'est très, très mauvais. Les dialogues, personne n'est juste. Lui, en fait, ça va parce que justement, il a tellement il joue un peu sur une note, parce que de toute façon il a le personnage intéressant, donc c'est genre je suis trop dark, hein, j'ai mes petites mèches qui retombent, j'ai des bagues aux doigts et tout, et je suis trop torturé dans ma vie. Ça n'a aucun sens. Enfin, le film va tellement en tout, enfin va tellement nulle part, et c'est genre ça parle un peu de l'art et ça parle un peu du deuil et de choses très profondes. Donc c'est incroyable.
Mais néanmoins, on peut reconnaître ce film. Non mais mis à part le fait que moi je trouve que voilà, c'est pas forcément le pire, même si c'est pas bien, et que je trouve que Ryan Gosling assure quand même un minimum dedans. C'est peut-être, c'est l'une des premières fois où il va jouer avec des grandes stars qui sont déjà établies. Enfin, Ewan McGregor et Naomi Watts, ils sont déjà vraiment reconnus. Bob Hoskins aussi, évidemment. Donc là, on va dire qu'il met un peu plus sympa dans le système hollywoodien qui l'amènera plus tard vers des plus grosses productions, quoi, je pense.
Bah, et qui se confirme du coup avec évidemment le rôle qui a fait le grand succès inaugural de Ryan Gosling au cinéma, même si techniquement il est sorti avant, mais, avant Stay, mais les productions sont un peu chevauchées. C'est évidemment N'oublie jamais ou The Notebook en anglais, donc adaptation du fameux bouquin de Nicholas Sparks, donc le roi du mélo, et réalisé par Nick Cassavetes. Et on peut le dire quand même. Bon, déjà, moi, je l'ai revu et j'ai encore pleuré parce que, bon, voilà, ça, c'est pas un grand film, The Notebook, mais ça marche. Tu peux pas te dire le contraire, en fait. Et ce qui est assez génial, pour le coup, je trouve, là-dedans, c'est qu'il faut se dire qu'à l'époque, Gosling était pas aussi l'icône sex-symbole qu'il est aujourd'hui. Et en 2003, quand Nick Cassavetes le caste dans ce rôle-là, dans le rôle de Noah, donc jeune mec du sud des États-Unis, simple ouvrier qui tombe amoureux évidemment face au Roméo et Juliette de cette fille de Bourges très riche, Ali, et ils sortent ensemble durant un été, ils sont très très amoureux, mais lui part à la guerre, elle rentre à New York pour faire ses études, et puis en fait ils se retrouvent des années après quand elle est fiancée et que lui il a reconstruit une baraque, et ils tombent ensemble à nouveau amoureux. Mais en même temps, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que Nick Cassavetes dit qu'en fait il voulait pas justement, derrière le vernis très mélo hollywoodien à l'ancienne qu'il met dans le film, il voulait pas du tout ce côté très lisse du personnage. Et il tenait à quelqu'un d'un peu, et il le dit lui-même, un peu bizarre. Et en fait, il trouvait que Gosling collait parfaitement à l'image qui se faisait de ça. Et je pense que ça marche énormément parce que quand tu parles de N'oublie jamais au niveau des performances d'acteurs, d'ailleurs, c'est marrant parce que sur mon DVD, c'est le seul bonus que t'as. En fait, c'est le making-of consiste uniquement sur trouver les acteurs. Et comment ils ont trouvé le casting, en fait, et à quel point c'était ça qui était primordial. Alors évidemment, Gosling met souvent en avant que la vraie réussite du film, c'est Rachel McAdams, c'est le fait que ça soit elle qui, en plus, est finalement un peu le vrai point de vue du film, et que c'est elle qui porte aussi sur sa performance, qu'elle a le rôle presque le plus difficile à jouer, mais qu'ensemble, en fait, il y a tellement un truc qui s'est créé entre eux, et où c'est vrai que t'as ce truc d'ailleurs qui change du mélo traditionnel hollywoodien, où t'as quelque chose de plus charnel, t'as quelque chose de plus évident dans les rires qu'ils ont ensemble, dans le côté très vivant, très immédiat, très humain de leur relation et de la passion amoureuse qu'ils ressentent durant cet été.
Tu parlais de mélo ultime, et c'est tellement le mélo ultime que pendant plusieurs années, ma compagne a refusé que je le regarde avec elle parce qu'elle me disait que si je n'aimais pas ce film, elle changerait les serrures, tout simplement. Donc globalement, pendant très longtemps, je me suis dit je ne le regarderai pas avec. Ou en tout
cas, zéro pression.
Voilà, donc zéro pression. Et donc je l'ai vu. Je l'ai bien aimé, mais je ne sais pas si elle pense que je l'ai vraiment bien aimé.
Ah, pense que tu m'étonnes.
Bah, pour pas changer les serrures, tout simplement, parce que c'est vrai que ce serait pas bien pratique pour entrer chez moi. Mais non, mais du coup, moi, je pense pas que le film soit un chef-d'œuvre absolu, mais j'ai trouvé que c'était beau. C'est une très belle histoire, tout simplement. Donc ça fonctionne bien, et il y a une vraie plus-value, c'est la relation, enfin on va dire l'alchimie entre les deux acteurs, ce qui est vachement intéressant, parce que du coup tu parlais de Nick Cassavetes. Il faut savoir que Nick Cassavetes, quand il a envoyé le script, Ryan Gosling lui a dit carrément bah, « Attends, mais mon visage, il va pas du tout avec une comédie romantique. » Parce qu'à l'époque, bon, Ryan Gosling, c'est pas non plus l'homme le plus beau du monde, mais bon.
Oh, mais ça, je comprends pas, mais oui, d'accord.
Bah, il lui a dit ça, en tout cas.
Bah, il avait déjà à ce moment-là la grosse barbe qu'il a d'ailleurs dans la deuxième partie du film, et c'est vrai que c'est pas là qu'il est au milieu du film.
Voilà, on va dire, c'est pas son meilleur atout à ce moment-là, mais enfin, il est beau gosse, hein, d'accord, mais...
Et c'est en tant que beau gosse qu'on parle, nous, hein, tu vois, on se permet de juger parce qu'on sait ce que c'est que d'être beau gosse. Donc c'est...
En effet, en effet. Mais du coup, Nick Cassavetes, tu lui as dit « Je sais, mais c'est pour ça que je te choisis. Parce que au moins, quand le personnage de Rachel McAdams va te choisir, ce sera pour les bonnes raisons. » Et lui, il est en mode « C'est un peu méchant quand même et tout. » Et il lui a dit « Autre chose, Nick Cassavetes, tu lui as dit « Si je prenais Brad Pitt, tout le monde forcément tomberait amoureux de lui, tu vois. Mais toi, qui va tomber fou de toi ?»
J'en reviens pas.
Quel bâtard.
Mais what et tout. Bon, ok, du coup, j'accepte le rôle. donc bon bah voilà, il a accepté le rôle alors qu'il était pas forcément qu'il se sentait pas forcément beau gosse ultime qu'on pourrait voir habituellement dans une comédie romantique un peu à la Hugh Grant ou tout ça quoi. Et ce qui est vachement intéressant, c'est quand même que la relation entre Rachel McAdams et Ryan Gosling n'était pas du tout une bonne relation à la base sur le tournage. Ils se détestaient,
ah ouais.
littéralement. En fait, il faut savoir que Ryan Gosling, il a trouvé assez rapidement Nick Cassavetes, puisqu'il avait une idée très préconçue de qui il voulait pour le personnage masculin, en tout cas le plus important, pas celui de James Marsden. Et il avait une idée encore plus fixe pour le personnage de Ali. Et donc il disait, je ne commence pas le tournage tant que j'ai pas trouvé qui. Voilà. Donc ils ont fait beaucoup de répétitions. Il me semble qu'il y a Reese Witherspoon qui a participé à ça. Mmh. Il a failli avoir Britney Spears. On va bien savoir ce que ça va donner.
Oh, les retrouvailles après Justin, mon Dieu.
Apparemment. Et du coup, casting avec Rachel McAdams, il se renvoie la parole et les dialogues, et ça match direct. Nick Cassavetes, il est en mode « Où est-ce que je me mets? C'est trop bien et tout. » Donc,
moteur.
Donc il était en mode « Mais c'est super !» Et pendant le tournage, Vlatipak, ça se passe pas très bien en fait. Et qu'à un moment donné, Ryan Gosling, il joue en chant contre chant. Enfin, il y a des dialogues qui jouent en chant contre chant. Et Ryan Gosling, il dit à Nick Cassavetes, pendant que c'est les chants contre chants, je voudrais que tu me mettes quelqu'un en face qui n'est pas elle en fait.
Ah ouais, chaud.
Et du coup, il est en mode, bah non. Du coup, c'était complexe, etc. Et il se criait littéralement tout le temps dessus parce qu'elle est très très attachée à son rôle et lui il avait une vision différente de son rôle à elle et inversement etc. Et un jour le producteur les a réunis dans une salle de réunion, Rachel McAdams, Ryan Gosling, Nick Cassavetes et donc le producteur, et là il leur a dit ça va pas pouvoir continuer comme ça, donc il va falloir que vous régliez vos problèmes maintenant. Nick Cassavetes il s'est barré, le producteur il s'est barré, ils sont engueulés. Ils ont dit toute leur vérité et apparemment au bout d'un certain temps Ryan Gosling est sorti, il est allé voir Nick Cassavetes, il lui a dit c'est bon, on peut continuer. Voilà. Oh et du coup, après, apparemment, toutes les scènes des engueulades sont plus ou moins des engueulades véridiques. Et donc, ça sent qu'ils ne s'aiment pas à ce moment-là. Ouais. Ce qui est super intéressant. Et c'est ce qui les a amenés à être de plus en plus liés et à trouver une vraie alchimie au fur et à mesure du tournage. D'où le fait qu'après le film, bah, ils se soient mis ensemble quand même pendant 3 ans.
Et oui.
Ce qui n'est pas n'importe quoi. Donc, non, mais du coup, c'est super intéressant de voir... toute l'évolution
ouais,
par
rapport
à ce film.
En plus, c'est la scène qu'on retient le plus de N'oublie Jamais. C'est le moment où il lui met, lui, le dilemme, oui, tu vois, où voilà. Il lui dit « Choisis-toi, what do you want ?» Tu vois, c'est ce que toi, tu veux, et est-ce que tu veux rester en sécurité avec ce mec-là, même si tu dis que tu l'aimes, et il la croit, mais où est-ce que tu veux être avec moi, mais réfléchis pour toi ce que tu veux, et je veux pas te perdre une deuxième fois, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, l'engueulade, il le fait en plan fixe, en chant contre chant, oui. Et d'ailleurs, le film a vraiment ce classicisme hollywoodien... voilà, c'est très très sobre, il y a une belle photo donc ça marche bien hein, mais ça casse pas trop patin un canard non plus, mais à ce moment-là en fait leur performance prend tellement l'ascendant sur le reste que évidemment que ça marche en fait.
Mais en fait moi je trouve que c'est un des problèmes du film, tu vois, tu parlais du fait que justement le casting était un peu passé devant avant tout, enfin moi c'est un film avec lequel j'ai pas mal de mal justement parce que je trouve que le concept est incroyable de ces allers-retours dans le passé, enfin le fait qu'elle ait Alzheimer et tout, enfin je trouve que c'est le concept est magnifique et je trouve que le casting est très bien, mais par contre derrière je trouve que l'écriture elle est si niaise, ah ouais. Quoi, vraiment.
Oh mais c'est pour ça que c'est le mélo ultime, c'est le truc qui fait bonbon, il te fait du bien sur le moment, ça te fait pleurer, mais c'est les bonnes larmes, tu vois, c'est vraiment...
Ah mais oui, mais tu vois, je trouve que ça aurait pu vraiment profondément bouleversé, et en fait à chaque fois j'ai envie de me cacher tellement je trouve que c'est trop niais, quoi, ça dégouline, mais... c'est
ouais, c'est niais, mais c'est tellement joli,
c'est parce que tu
qu'en
préfères
fait,
le
émo fin...
de Stay, c'est pour ça,
ah ouais.
c'est tellement joli qu'à la fin ça se finisse de cette manière, j'ai pas envie de donner la fin pour ceux qui l'auraient pas vu, mais c'est presque, tu vois, l'histoire d'amour parfaite entre guillemets, dans le sens où de bout en bout il y aura eu une sorte de on est ensemble jusqu'à la mort, quoi, littéralement. Et donc c'est super joli.
Et en même temps, je pense aussi, tu vois, que ce qui a fait le succès de ce film-là à l'époque aussi, c'est que tu penses à des films de passion amoureuse et tu penses tout de suite aussi à des trucs où les personnages, notamment entre eux, sont forcément très violents. Ce qui d'ailleurs est un truc qui peut revenir plus tard dans la filmo de Gosling, notamment avec Blue Valentine, dont on reparlera après. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans N'oublie Jamais, c'est que t'as jamais ça. C'est-à-dire que tu ressens vraiment la passion profonde qu'ils ressentent l'un pour l'autre, mais notamment lui qui pourrait péter un câble à plusieurs reprises, parce qu'il faut quand même admettre qu'elle, à la fin, elle casse un peu les couilles, il n'y a pas trop savoir ce qu'elle veut. Mais
c'est dur.
Jamais, tu vois, enfin, il y a jamais. Il y a un mot plus haut que l'autre, mais ça n'arrive jamais où, tu vois, son corps est toujours dans une forme de retenue et il est toujours dans une forme de bonté aussi et de justement à toujours contrôler quand même son corps par rapport à ce qu'il ressent. Et ce que je trouve d'ailleurs très beau, c'est que du coup il partage aussi une fragilité que d'habitude c'est juste le personnage féminin qui y a droit, notamment durant leur première scène de sexe, où je trouve vraiment qu'il y a un parallèle très beau où chacun enlève un vêtement
tu vois, chacun son tour, et tu sens qu'ils partagent vraiment cette fragilité ensemble, de se mettre littéralement à nu l'un pour l'autre, et c'est pas juste elle qui enlève tout.
C'est un concept d'émission M6, quoi.
Mais non, oh là, t'as vraiment pas de cœur, Judith.
C'est
bon. Elle détourne tout. Moi, je parle de beauté, machin. Ils sont à la bougie et tout. Ils font l'amour par terre. C'est trop beau. Et voilà, tout de suite, jeter les M6.
Ouais. Après, c'était dans une maison dégueulasse. Hein, on va pas se mentir.
Oui, mais c'est parce qu'il veut la retaper mais... pour elle. Il va faire la maison blanche avec les volets bleus. Et il le fait.
Il le fait.
Et
parce que pendant qu'elle n'est pas là, il faut bien qu'il s'occupe. Mais en vrai, c'est joli. C'est vrai que, en fait, c'est... C'est marrant parce que c'est un film dont tu, quand on a vu beaucoup, donc pour l'avoir vu tard, qui est hyper attendu. Enfin, t'as pas trop de surprises dans comment va se finir l'histoire et comment, enfin, par rapport à ce montage parallèle, etc., la double temporalité, tout ça, t'as pas vraiment de surprises. Et tu t'attends très très vite à savoir ce qui se passe parce que c'est parce que tout est presque martelé, quoi. Même dès la première vision où t'as un personnage féminin qui voit quelqu'un faire être sur une barque avec ses rames et les oiseaux, etc.
Le soleil couchant
qui forcément, bon, plus tard sera un rappel de, mais c'est, ça fonctionne, quoi. Et Gosling est bien, encore une fois.
Mais c'est ça, et ce n'est sans doute pas un hasard si le film a reçu à l'époque la récompense ultime, et ce n'est pas un Oscar, mais voilà, c'est le MTV Award du meilleur baiser de cinéma. Et c'est pas rien quand même, voilà. Et je pense que ça confirme, tu vois, l'importance de cette alchimie qu'il y avait entre...
C'est à la hauteur du film, oui.
Non mais meilleur baiser qu'ils ont refait en direct.
Ah ouais?
Et oui. Dans un souffle épique.
Damn. Antoine, s'il avait simplement été dans le public, vraiment, il aurait fait une crissière d'accord.
Je pense que là clairement. Ouais. Moi, c'est mon crush à moi, en fait. Tu vois, c'était mon crush tardif parce que je l'ai vu tardivement, le film, par rapport à Drive. Mais après, je me suis dit, ah ouais, quand même, il mérite tout ce qui lui arrive, ce cher Ryan, quand même. Ça a été le film que je me suis dit.
Mais en
c'est
tout cas,
un hasard, quand même.
Encore une actrice aussi avec qui, du coup, il va sortir. Après Sandra Bullock.
Tu es en train de dire qu'il y a un pattern, peut-être?
Bah, je sais pas, mais peut-être.
En même temps, moi je jouerais face à Ryan Gosling, je pense que je sors avec. Hein, donc,
c'est vrai. Après, est-ce que lui sortira avec toi? Je ne sais pas. Mais...
Bah oui, parce
que. Non, puisqu'il sort avec moi.
Ah oui, c'est vrai.
Bien vu. En tout cas, ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu vois, on parlait un peu du paradoxe aussi de Ryan Gosling par rapport à ses choix de rôle, et je trouve que c'est important par rapport à N'oublie jamais de voir surtout la rupture aussi que ça représentait dans sa carrière, parce que du coup, lui espérait pas forcément que ça soit un tel carton au moment de sa sortie, et surtout le film a été un succès d'estime et où tout le monde l'a repéré, lui et Rachel McAdams immédiatement, et même les autres acteurs d'ailleurs. James Marsden aussi dans la foulée a été assez reconnu, même si c'était plus court, disons. Mais ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, lui du coup se retrouve dans le rôle évident hollywoodien, tu vois, le truc de drame romantique avec les gros violons, la super photo, le truc de glamour ultime de film hollywoodien, et pourtant tu te dis il devrait jouer de ce succès immédiat, de ce momentum pour rebondir dessus, et au contraire qu'est-ce qu'il fait? Il se dit j'ai peur de ce succès là je le crains parce que je sais rien faire d'autre de mes 10 doigts et je veux pas gâcher ma carrière après ça, et donc pendant un an après N'oublie jamais, il a choisi de travailler dans un petit resto local à LA. Où, du coup, tu pouvais croiser Ryan Gosling qui te servait ton hamburger, je suppose. Et il avait vraiment choisi cette déconnexion en disant justement qu'il voulait bien choisir ses rôles et ne pas prendre le risque de faire ce que beaucoup d'acteurs font, c'est-à-dire de se droguer parce qu'ils se font chier et de potentiellement plomber leur carrière. Et comme ils savent rien faire d'autre, ils font rien d'autre. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'on parle de ça finalement avec cette façon presque de fuir le succès qui va avec une carrière comme la sienne. Et pourtant, le succès le rattrape toujours, même quand tu sens qu'il n'en a pas forcément envie lui, et ça arrive notamment avec le film suivant dans sa carrière qui est quand même assez important, qui est donc Alf Nelson, et qui est assez intéressant puisque c'est surtout le premier film qui lui vaudra une nomination aux Oscars. Donc de Alf Nelson qui sort en 2006 et qui est réalisé par Ryan Fleck et en partie par Anna Boden qui est la co-scénariste, qui sont les futurs réalisateurs de Captain Marvel, voilà, de Tristoun, et où il incarne du coup Dan Dunn qui est donc un professeur de collège qui fait un peu tout d'ailleurs à Brooklyn dans un quartier difficile avec des gamins en difficulté, et où donc lui c'est le truc, c'est le film un peu à la Sundance slash Darden style, tout en caméra épaule en très gros plan, où du coup lui fume du crack parce que dans sa vie ça va pas bien, et notamment qu'on comprend qu'il s'est séparé de la meuf avec qui il était, et en même temps il se lie d'amitié mais d'une manière un peu ambiguë avec une de ses élèves qui est clairement elle en difficulté puisque son frère est en prison, qu'elle vit seule avec sa mère et qu'elle est abordé par le dealer du coin qui veut aussi du coup lui faire faire le sale boulot pour elle, et où il essaie lui de l'aider alors que bah il est lui-même en grande difficulté puisqu'il fume du crack.
Bon, moi je le trouve très très bien dans ce film, mais en même temps tu vois, c'est marrant parce que du coup il est rattrapé par une forme de célébrité post N'oublie jamais. Et il se dit, je vais jouer un rôle un peu à contre-courant où je joue un gars qui est addict à une drogue, donc le crack. Mais ça fait vraiment rôle. Je pense qu'il est passé à Sundance d'ailleurs, ce ne serait pas étonnant.
Il est passé à Sundance.
Voilà, et du coup, c'est vraiment le petit film indépendant, comme tu peux l'imaginer, film indépendant américain, quoi. Donc moi, ce n'est pas vraiment un film qui m'intéresse beaucoup, que je trouve très attendu. Enfin, c'est le cliché absolu de ce qu'on pourrait faire à Sundance, quoi. Mais lui, encore une fois, est bien, même si malgré sa performance, c'est un peu tout ce qu'on pourrait attendre d'un rôle comme ça, quoi. Je trouve qu'il le transcende jamais vraiment.
Ah ouais.
Je trouve qu'il est bon, d'accord. Mais en même temps, il va jamais plus loin pour moi.
Ouais, tu vois, en même temps, je me dis effectivement, c'est l'évidence, surtout quand tu... Alors là, le truc, c'est qu'il est prof, mais comme les gamins sont un peu en difficulté, il fait une forme de dialectique autour des cours d'histoire qu'il doit faire. Et les séquences les plus intéressantes sont souvent celles où tu sens que le film le laisse un peu faire, et le film lui avec les gamins en contre-champ et le laisse avoir son discours et dialoguer avec les gamins. Et où je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se passe. Enfin, moi, bon, c'est peut-être aussi mon... Je sais pas, j'ai deux parents profs, donc ça me parle de ce genre de truc-là. Mais je trouve qu'il y a un truc dans ces moments-là où lui amène une immédiateté et un truc, tu vois, de... Où justement, derrière, en plus, on lui reproche de pas faire le programme, de pas suivre le système exactement comme il faudrait. Mais les gamins ont des besoins aussi spécifiques. Et il s'accroche à ça. Et je trouve que l'alchimie entre lui et les gamins en face de lui, et notamment avec donc, la gamine Dre... avec qui il se lie d'une forme d'amitié un peu bizarre et assez belle en fait, et je trouve qu'il y a, mais ça, là aussi en fait, encore une fois, ça dépend vraiment de sa performance plus que de la mise en scène qui effectivement elle est très fonctionnelle, beaucoup en t'es dans des plans de bagnole avec la caméra sur le siège arrière pour les filmer eux un peu de profil machin, mais ça dépassera jamais certains trucs, et puis quand ils filment du crack tu l'as en très très gros plan pour te montrer que ça va pas, ça effectivement là-dessus le film il est pas très original, mais je trouve là encore que ce qui est assez fantastique c'est que c'est pas étonnant qu'il ait récolté une nomination à l'Oscar pour ça, parce que sans lui, enfin, et sans une performance d'acteur suffisamment forte à ce moment-là, le film il capote complètement.
Oui, c'est sûr, mais je pense effectivement que évidemment qu'il est excellent, mais qu'on sent qu'en fait qu'il y a dans ce personnage et dans ce qu'il est autorisé à en faire l'esquisse de choses beaucoup plus intéressantes qu'il fera derrière, mais qui sont à ce niveau-là, voilà, encore très cadrées, encore très sages malgré tout. Évidemment qu'on sent le potentiel, que oui, il est excellent dans ce qu'il fait, mais il a pas encore la place pour s'exprimer, quoi.
Ouais, et par contre, c'est vrai que c'est peut-être le premier film où il est déjà pas mal connu quand même depuis N'oublie jamais, où il a un rôle principal vraiment, et après il fait quasiment que des rôles principaux en fait. Lui qui a été plus connu par des, on va dire des rôles, il y a eu The Believer donc Danny Balint, mais après c'est Calcul meurtrier, c'est un rôle secondaire, The Shutter Rule c'est un rôle secondaire, enfin tous c'est des rôles secondaires. N'oublie jamais, on va dire c'est un rôle principal, mais c'est un double rôle principal parce que sans Rachel McAdams il serait rien, et là à partir de ce moment là c'est quand même un rôle principal à lui, le premier qu'il retrouve depuis un moment, parce que dans Stay aussi c'était pareil, c'était un trio quoi, et il retrouvera jamais autre chose à part avec un autre film avec Anthony Hopkins, je pense. Et peut-être que du coup c'est aussi ça le lance, quoi.
Et ça confirme surtout sa place pour le coup dans le ciné indé américain, et on sent que c'est ça qui l'intéresse vraiment, plus que de se chercher effectivement après N'oublie jamais des rôles qui confirmeraient vraiment son méga succès. Et il y en a un en particulier, je pense que là pour le coup on va tous dire que c'est le méga coup de cœur, c'est Une fiancée pas comme les autres.
Oui, Une fiancée pas comme les autres, c'est un film de 2007 réalisé par Craig Gillespie, qui a donc aussi fait la version récente de Fright Night, que personnellement j'ai détesté, mais peu importe.
Et surtout, il a fait Moitonia quand même.
Oui, mais j'allais y venir. J'étais au début de ma liste.
J'ai eu peur.
Il a fait Moitonia, pardon, qui est tout de suite beaucoup mieux. Et bon, il a fait Cruella aussi.
Qui est quand même un des lots du panier des live Disney. Donc,
oui, c'est pas
ce qui reste le bas du panier du cinéma. Mais...
Oui, absolument.
Donc, Une fiancée pas comme les autres, c'est un film dans lequel on trouve aussi l'extraordinaire Emily Mortimer, aussi une excellente actrice dans son genre. Et Paul Schneider. Et donc c'est l'histoire de Lars, qui est un jeune homme extrêmement timide et qui ne supporte pas le contact humain ou la moindre forme de sociabilité, on va dire. Et un jour, il présente enfin une une nouvelle copine à sa belle-sœur et à son frère qui essayent de le sociabiliser depuis longtemps. Donc ils sont trop contents, sauf que le problème, bah, c'est que cette nouvelle copine, c'est en fait une poupée sexuelle en plastique commandée sur Internet. Mais l'art, c'est la traite comme un être humain, vraiment, réellement. Il l'habille avec des vrais vêtements.
Il lui parle.
Il lui parle, voilà. Il attend, en fait, il est dans une illusion totale, il attend que tout le monde la traite comme un être humain.
Et il ne l'utilise pas sexuellement.
Il ne l'utilise pas sexuellement parce qu'ils veulent se marier d'abord.
Enfin, parce qu'elle est très croyante.
Et parce qu'elle est très croyante, oui. Et en fait, pour ne pas le brusquer, selon les conseils de sa psychiatre, de sa psychologue, et ben en fait, toute la petite ville va se plier au jeu de en fait, traiter cette fameuse Bianca comme une vraie personne. Et en fait, bah, toute la ville va aimer ça et respecter ça pour essayer d'accompagner Lars vers le chemin d'une réelle sociabilisation et vers la guérison finalement. Et effectivement, c'est un très très beau film. Donc c'est d'ailleurs la scénariste, donc Nancy Oliver, qui a eu l'idée de faire ce film lorsqu'elle est tombée sur le site realdoll.com qu'on voit dans le film. Et
comment en fait, elle est tombée sur ce site, on ne sait pas.
Alors justement, un jour, elle écrivait un article sur les sites chelous. Elle est tombée sur celui-là. Elle s'est dit mais incroyable. Et donc son script se retrouve tout de suite en troisième position sur la fameuse blacklist d'Hollywood, qui est donc la fameuse liste sur laquelle les scripts qu'on estime avoir un très très fort potentiel se retrouvent. Donc voilà, il est évidemment sélectionné pour être tourné. C'est un film pour lequel Gosling prend plus de 10 kilos d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il amorce, il y a un début de transformation physique pour ce rôle, il se transforme, il casse complètement son image du coup, ce qu'il avait pu instaurer avec N'oublie jamais, il est plus du tout dans le rôle du jeune premier, du beau gosse, voilà. Et ce qui a intéressé Gosling avec ce script, c'est qu'il avait l'impression que le film allait retomber sur des choses, un format, comment dire, un schéma plus classique avec quelqu'un qui allait forcément le prendre par les épaules et le secouer en disant « mais tu vois bien qu'elle est pas réelle » ou alors que quelqu'un allait casser la poupée ou ce genre de choses. Et en fait, non, il a beaucoup aimé que le film aille au bout de son concept de genre « non, on va assumer cette espèce de chemin délicat et sensible de la guérison et de l'illusion jusqu'au bout ». Et c'est vrai que c'est un joli pari que relève
le film.
De
quasi utopie d'ailleurs de bienveillance de cette communauté resserrée qui en fait accepte sans trop de...
Enfin,
sans rechigner d'aider, d'accepter que ça soit une forme de thérapie et que de toute façon eux-mêmes ils trouvent presque leur compte en permettant à Bianca de faire des choses qui aident aussi la communauté.
Absolument.
Et de faire en sorte de l'obliger d'ailleurs à avoir une vie à elle et en disant d'ailleurs à Lars, elle a le droit d'avoir une vie à elle si, à partir du moment où on la traite comme une vraie être humain, elle n'est pas juste ta copine. Et c'est absolument magnifique comme évolution presque bizarre du scénario parce que tu n'attends qu'une chose, c'est que comme le film est en plus filmé pas mal en plan fixe, avec cette idée aussi qu'il joue énormément, et je trouve ça très malin, de la gêne de Gosling en permanence, puisque comme tu le dis, il a peur de tout contact physique, mais du coup, il est totalement mais resserré sur lui-même, à porter 10 000 couches de vêtements, avec en plus son léger surpoids. T'as vraiment ce côté où il sait pas où se foutre dans l'espace, y compris avec elle, qui en plus, elle est totalement immobile. Et en fait, petit à petit, il arrive à trouver cette place dans cet environnement-là, alors que toi, tu n'attends qu'une chose, c'est que tu te dis, cette fixité des cadres, elle est là pour refléter tout le cringe de la situation. Ce qui est très légèrement fait, évidemment, au début, quand il la présente la première fois. Mais en fait, tout de suite après, c'est vraiment cette bienveillance, cette bonté de tout le monde qui prend le pas. Et où surtout, du coup, le film n'a jamais, et pourtant, ça serait le premier truc casse-gueule d'un projet comme ça, à juger son personnage ou à le prendre un peu de haut. Et il y a toujours une sensibilité dans la manière qu'il a de le filmer. Ce qui fait que lui, je pense aussi, est très à l'aise en tant qu'acteur là-dedans. Quand il est avec la médecin, qu'il parle ensemble, tu vois, il y a vraiment ce truc où, petit à petit, il laisse les scènes durer. Et lui, il a le temps vraiment d'imposer son tempo sur les scènes, ce que je trouve absolument fantastique.
Même, il y a quelque chose de... Enfin, c'est ce que tu dis, c'est tellement... utopiste comme film, de voir un film qui joue tellement sur si le monde était bienveillant, qu'est-ce que ce serait bien, quoi. Et c'est un peu moi ça m'a fait penser à Truman Show tout simplement, mais Truman Show en mode en fait on va aider on va aider la personne qui est pour le coup bizarre. Truman c'est pas tout à fait la même chose, mais dans cette idée de on va tout faire pour qu'il se sente le meilleur des mondes, alors même que c'est lui le marginal, on va s'adapter à lui. Et c'est vraiment c'est hyper touchant. Et même Gosling, dans sa manière qu'il a de tout retenir, pour le coup, il retient vraiment tout le temps ce qu'il a et qui commence à s'ouvrir au fur et à mesure par rapport à sa poupée jusqu'à la fin, que je ne vais pas révéler là, mais où il se lâche, ou en tout cas il est libéré d'un poids au point où le film va quand même, jusqu'au bout de son concept. Pour que tu ailles jusqu'à ce niveau-là, que tout le monde aille jusqu'au bout de l'expérience presque, presque une expérience sociale vis-à-vis d'un une petite ville.
C'est ce qu'on disait aussi, parce que c'est, tu vois, cette idée de comment Gosling est un acteur qui forcément crée une façade d'acteur avec son personnage, mais ces personnages eux-mêmes sont des mecs qui sont tellement mal dans leur peau qu'il se façonne aussi, tu vois, un rempart. Et là, c'est le film le plus explicite là-dessus dans sa carrière, puisque c'est littéralement, il se crée une sorte de mécanisme de défense face à un trauma qu'il a vécu. Et tout le monde, en fait, tout le monde saisit ça, tout le monde comprend que c'est pas qu'il est fou, c'est qu'il s'est créé un mécanisme de défense et il faut l'aider à pouvoir justement s'en défaire parce que c'est ça la vraie guérison qui peut se faire. Mais pour ça, il faut que le chemin, ce soit lui qui le fasse. Il peut être aidé par ces gens-là, mais c'est à lui de faire le chemin.
Et ce que je trouve ouf, justement, c'est que en fait, son propre blocage à lui, c'est le seul antagoniste du film. Il n'y a vraiment personne qui va contre lui, et c'est dingue, je trouve, de réussir à faire un film qui n'est pas du tout chiant et qui ne manque pas du tout de rebondissements, alors qu'il y a zéro méchant. Personne ne lui met de bâton dans les roues, au contraire.
Et c'est terrible, parce que moi, il y a plusieurs scènes où vraiment, quand les scènes démarrent, tu dis « Oh putain, ça va tellement mal se passer ». Moi, la scène du bowling, où il est du coup avec une meuf à un bowling, et il y a d'autres mecs qui débarquent en disant « Oh, il y a Lars !» Et tu te dis « Ils vont essayer de draguer la meuf à sa place. » Et tu te dis « Ça ne peut que mal se passer. » Et en réalité, pas du tout, juste tout le monde gentiment joue au bowling tous ensemble et accepte le mec, justement, il est même content de voir que il est sans la poupée et il accepte d'être au bowling avec nous, ce qui n'arrive jamais. Donc c'est, il y a un truc tellement à ce moment-là rafraîchissant où tu te dis ah, et c'est un film qui fait tellement du bien.
Oui, c'est ça fait vraiment du bien. Et il fait penser, parce que du coup, au moment de sa sortie, le film a eu de très bonnes critiques, globalement, et notamment Ryan Gosling, sa performance a remporté d'excellentes critiques, et vraiment, je trouve que, évidemment, on est là pour dire dans tous les sens que c'est un excellent acteur, mais vraiment, dans ce film, je le trouve extraordinaire de tout ce qu'il réussit à faire passer en retenue, vraiment, c'est fou, dans les regards, dans les moindres micro-mouvements, je trouve ça incroyable, et toute la subtilité d'un personnage qui dit rien de lui, et pourtant, t'as l'impression de voir toute une personnalité se dessiner avec des mouvements de sourcils, enfin, je trouve ça incroyable. Et notamment, la comparaison a pas mal été faite avec Harvey, le film avec James Stewart, le film de 1950 de Henry Coster, dans lequel James Stewart est ami avec un lapin imaginaire, un lapin géant imaginaire, et aussi un personnage extrêmement gentil, bienveillant, et qui ne voit que le bien autour de lui. Et effectivement, je trouve que Ryan Gosling, là-dedans, est un pur héritier de James Stewart, et je trouve ça intéressant comme filiation. Voilà. Mais malheureusement, par contre, c'est pas un film qui a beaucoup marché, parce que pour un budget de 12,5 millions, ce qui est pas énorme, il n'en a rapporté que 11, un peu plus de 11. Donc,
Mais ça confirme aussi cette place-là qu'il a à ce moment-là dans le cinéma indé, et qui le mène peut-être pour le coup à l'un de ses... Enfin, moi, je trouve l'un de ses plus beaux rôles, et surtout la confirmation qu'il a une place particulière dans le cinéma indé-là, et c'est en 2010 avec Blue Valentine. Mmh. Donc, sa première collaboration avec le réalisateur Derek Cianfrance, qui là repose intégralement sur l'idée donc d'un couple donc qui est composé de Gosling et de Michelle Williams, qu'il retrouve du coup après Leland, et donc de ces deux personnes qui se rencontrent, qui s'aiment, et tout le film repose sur ce parallèle entre le début de leur rencontre dans le passé, qui est tourné en 16 mm d'ailleurs, en Super 16, et le présent de leur relation tourné en numérique, où tu comprends que c'est la fin. Clairement, ça va plus entre eux, qu'ils ont un enfant ensemble, mais qu'il y a un truc qui s'est perdu. Et c'est d'ailleurs l'une des premières fois où Gosling assume autant de sans les dire, parce que alors, dans le passé, en 16 mm, il est beau gosse. Il est comme on le connaît. Il met une petite, il a son petit blouson de cuir, il a la petite capuche et tout.
La guitare même.
Le petit ukulélé. C'est le petit ukulélé. Mais après, dans le futur, enfin dans le présent, une fois qu'il est un peu dégarni et qu'il a le vieux débardeur, là, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, moi, c'est un film que je trouve absolument magnifique. Mais ça, c'est bon. Après, n'oublie jamais, moi, de toute façon, Cianfrance et ses mélos qui sont là aussi très assumés comme étant des mélodrames. Moi, ça me bouleverse complètement. Et je trouve ce film-là absolument sublime dans ce qu'il... Là aussi, en fait, finalement, l'alchimie de ses acteurs. Ce qui est assez amusant, c'est que Cianfrance, ça faisait 12 ans qu'il voulait mettre le projet en place. Il y a eu 7 versions de script différentes. Il voulait, à la base, malgré son budget très réduit, le tourner sur, justement, plusieurs années pour permettre à ses acteurs de vieillir aussi, ce qui ne s'est pas fait. Mais il a rencontré très tôt Michelle Williams, dès 2003, en fait, à sortir à peine de Dawson, du gros succès de la série Dawson, et a voulu expérimenter d'autres trucs. Et il a rencontré Gosling 2 ans après. Et Gosling, au début, ce qui est marrant, c'est qu'il n'était pas chaud pour les scènes où il était plus âgé. Mais finalement, donc le projet s'est lancé en 2009. Ils ont pu enfin le faire à ce moment-là. Et ils ont totalement assumé d'aller dans ce truc-là. Et moi, ce que je trouve fort, c'est que tu te dis, en voyant le film, pareil, ça repose quand même globalement sur eux. Même si je trouve, tu vois, la mise en scène beaucoup plus solide et millimétrée que dans un Alf Nelson ou un truc comme ça. Mais alors, ce qui est génial, c'est la méthodologie, en fait. Tout repose sur la méthodologie qu'il y a eu entre eux. Donc d'un côté, Cianfrance a imposé en fait que Gosling et Williams prennent une baraque ensemble pour vivre dedans avant le tournage, pour justement apprendre vraiment à se connaître. Et puis ils avaient la gamine avec eux aussi pour faire des films de famille, apprendre à cuisiner ensemble, enfin voilà, faire plein de trucs comme ça. Et puis il les obligeait à s'engueuler, à tel point qu'il a créé une fausse engueulade où il a dit à Gosling, s'il te plaît, fais comme si tu allais obliger Michelle Williams à coucher avec toi. Et ouais, un peu touchy comme truc. Et en fait,
il y a un terme pour ça.
Gosling l'a plus ou moins fait, mais tu sais, en n'allant pas au bout, quoi. Mais du coup, ce qui a provoqué une méga engueulade entre eux, et ce qui l'a obligé à dormir dans le canapé. Mais ça a visiblement beaucoup nourri les scènes par la suite. Et ce qui est d'autant plus beau que, on en parlait pour le côté Rago, mais lui sortait de sa rupture avec Rachel McAdams, et Michelle Williams surtout était encore en plein deuil de la mort d'Heath Ledger, son mari. Donc ça aussi, ils le disent d'ailleurs, beaucoup nourri leur performance, et je trouve que c'est aussi ça qui aide vraiment le film. Et après, surtout, donc, Sian Friends venait du doc, beaucoup, et ça a vraiment joué là-dessus aussi, parce que en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que tu te dis, les meilleures scènes du film, quand tu le découvres après, c'est celles qui sont totalement improvisées. Donc il y a deux scènes majeures dans le film, c'est la première scène, enfin la soirée qu'ils passent ensemble la première fois, où notamment Ryan Gosling avait son ukulélé, ce qui n'était pas prévu dans le scénario, et du coup il se met à jouer du ukulélé et elle a dansé, et c'était pas du tout prévu par le scénario, et clairement l'une des plus belles scènes du film. Et surtout, et ça c'est encore plus taré, c'est plus tard, donc le personnage de Michelle Williams tombe enceinte, et elle veut pas lui dire. Et ils sont sur l'un des ponts de Brooklyn, où du coup, lui sent qu'il y a un truc qui va pas. Et ils avaient juste dit que la scène devait, en gros, c'était... Elle devait pas lui dire, et il devait trouver le moyen, plus ou moins, de la forcer à lui dire. Et donc, ce qu'il fait dans la scène, c'est qu'il passe le grillage du pont de Brooklyn. Et il est à deux doigts de sauter du pont de Brooklyn pour lui dire « Tu me dis ce qui va pas ?» Et c'est là qu'elle lui dit. Et la séquence est intégralement improvisée. Et tu te dis, mais le gros du film repose entièrement là-dessus. Alors, l'alchimie entre les deux est... complètement taré.
Et je trouve intéressant de voir que Gosling, pour une fois, n'a pas tant de choses à cacher à l'intérieur de lui-même dans ce genre de rôle. Et que d'une certaine manière, c'est deux facettes de Gosling, mais du coup à deux moments différents, parce que souvent c'est deux facettes de ces personnages au même moment qu'il essaye de contrecarrer, etc. Et de voir de le voir du coup, dans cette période, on va dire, glorieuse, où il rencontre le personnage de Michelle Williams, et que, voilà, c'est de la séduction, tout ça, tout se passe bien, etc. Bon, il y a des drames entre eux, forcément, mais ils avancent, quoi. Et c'est joli, c'est Gosling à son habitude. Enfin, franchement, c'est Gosling séducteur absolu, quoi. Et il y a vraiment un... t'as l'impression que c'est le rôle de sa vie, quoi. Il est en mode, j'ai pas besoin de jouer.
La première scène dans le bus, elle est géniale, tu vois. C'est en plus l'espèce de phrase de dragouille qui lui sort.
Oh là là, mais qu'est-ce que...
Il dit, moi, de toute façon, toutes les belles femmes sont folles, donc toi, tu dois être complètement...
Ah oui, oh là là, j'ai facepalm tellement fort.
Non, mais même, l'approche quand même du gars, toutes les places sont prises, je peux me mettre à côté de toi, le bus est littéralement vide.
Mais ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça dans la vraie vie.
Ça ne marque que quand c'est Gosling et dans un film, globalement. Mais
ça revient, mine de rien, à ce qu'on disait aussi, parce que moi, tu vois, c'est un truc que j'ai remarqué, parce que tu attends, pour le coup, la frustration des personnages face à cet amour déliquescent, et où t'as pas, effectivement, l'entre-deux, en fait. Tu passes vraiment du passé idéalisé en 16 mm au présent. La froideur du numérique, en plus, dans cette chambre de motel où il passe une bonne partie du film, dans cette espèce de chambre du futur thématique qui est absolument terrifiante, dans le côté en plus ultra resserré qu'elle a. Mais t'as vers la fin du film, donc c'est la méga engueulade qu'ils ont vers la fin du film, où il y a ce truc terrible d'ailleurs qu'a dit, mais qui, je trouve, amène bien à ce que Gosling pense lui-même, je pense, de ses rôles masculins, c'est qu'elle lui dit j'ai plus de couilles que toi. Et lui, il lui dit, mais ça veut dire quoi en fait? Et ça veut dire quoi? Elle lui dit, I am the man dans la relation. Et lui, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être l'homme dans la relation? Qu'est-ce que ça veut dire être le mec? Et plus tard, d'ailleurs, il fout un coup de poing à quelqu'un. Donc, c'est... à ce moment-là, il tombe justement de ce côté obscur-là, de cette violence un peu inutile de ce couple qui se déchire à ce moment-là. Et là où, pour le coup, tu vois, ça contraste avec ce que je disais sur N'oublie jamais, où là, pour le coup, la violence physique dans le couple, cette déchirure passionnelle à se traduit par cette violence physique-là, que lui, au début, il ne veut pas, parce que c'est elle qui le frappe, mais finalement, il ne la frappe pas, mais il ne peut pas s'empêcher de frapper quelqu'un ou d'exprimer cette violence-là envers un mur ou un truc, mais ça explose.
Ce que je trouve hyper intéressant vis-à-vis de ce personnage dans la carrière de Gosling en général, c'est que c'est vraiment, pour moi, tu vois, c'est une histoire, c'est le prince charmant, c'est un personnage de prince charmant ou de jeune premier roturier, enfin voilà, qui va tout faire pour essayer de sauver sa demoiselle en détresse, mais qui, en fait, n'a pas du tout envie de ce genre de schéma, mais qui est prise dans une situation où elle peut pas tellement le refuser, ou alors elle se dit que finalement c'est peut-être ce dont elle a besoin, et finalement c'est pas ce qu'il lui faut, elle s'en aperçoit bien longtemps après. Et en fait, lui, il est vraiment, tu vois, dans un idéal de genre, il l'aime jusqu'au bout, d'un amour qui est pur, et en fait, il essaye, tu vois, enfin, il s'imagine en tout cas comme un sauveur, genre, vas-y, t'es enceinte, bah vas-y, je te connais à peine, mais on élève ton gosse ensemble, ce genre de choses. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, après, t'as un peu la chute du prince charmant qui est devenu à moitié chauve et qui, voilà,
bedonnant, qui boit de la bière le matin,
voilà, qui est vraiment bon, la déchirure. l'échéance du le prince charmant qui peut pas vivre en tant que prince charmant pour toute la vie quoi, et qu'il apprend cruellement. Et en fait c'est intéressant parce qu'on en reparlera plus tard, mais déjà Drive c'est un rôle et un film qu'il a vraiment abordé lui personnellement sous l'angle du conte de fées, et ça aussi était le cas même s'il joue pas dedans plus tard, mais pour Lost River qu'il a réalisé. Et donc je crois que c'est vraiment un type de personnage qui l'attire beaucoup, et justement parce qu'un peu le personnage de Prince Charmant, c'est pas tel qu'on le voit dans les contes, c'est pas des rôles ultra virils, et du coup je pense que lui là c'est vraiment un personnage qui justement veut explorer cet aspect de la masculinité qui n'est pas spécialement la virilité, mais qui est justement une masculinité idéale de conte, d'amour absolu, et qui en fait se cogne à la réalité, et où en fait lui il essaie de forcer cet idéal là dans un quotidien où ça peut pas exister quoi.
Ouais, et en parallèle de ça, ce qui mine de rien il tente quand même des trucs un peu plus gros comme projet à côté de ses films indés, où il est pour moi je trouve le plus passionnant. Alors bon, on pourrait s'attarder dessus, mais il fait La Faille avec Anthony Hopkins, qui est cette espèce de relecture encore du Silence des Agneaux, où Anthony Hopkins joue le psychopathe et lui joue cette fois un peu plus l'avocat, mais finalement bon, il a un rôle assez similaire à celui du Silence des Agneaux, donc c'est pas vraiment le rôle le plus intéressant. Pour autant, ce qui est assez passionnant, c'est que c'est peut-être l'une des dernières fois vers la fin des années 2000 ou début des années 2010 où il tente des rôles vraiment un peu border, comme on l'évoquait au début. Et il y en a un qui est assez intéressant pour ça, c'est Love and Secrets.
Oui, alors le film est vraiment assez anecdotique. Lui, c'est vraiment un thriller un petit peu basique. Il a été réalisé en 2010 par Andrew Jarecki, donc on n'est pas par ailleurs vraiment la carrière. Mais donc c'est un film dans lequel on voit aussi Kirsten Dunst, Frank Langella et Kristen Wiig. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est tiré de l'histoire vraie de Robert Durst, qui était donc un homme d'affaires, qui était soupçonné du meurtre de sa femme. À l'époque où a été fait le film, il était soupçonné du meurtre de sa femme qu'il aurait tué en 1982, ainsi que sa meilleure amie à lui qu'il aurait tué vers l'année 2000, et un voisin en 2001. Et en fait, ce fameux Robert Durst a été acquitté à chaque fois, et c'est on n'a jamais réussi à prouver. Enfin, à cette époque, on n'avait pas réussi à prouver sa culpabilité. Et donc, en fait, au moment où le film est fait et au moment où le film sort, Ryan Gosling interprète le rôle de cet homme, à double tranchant, qui est genre en apparence le gendre idéal et qui en fait derrière se révèle être un potentiel psychopathe. Mais le film donne pas la réponse, parce que dans la vraie vie on l'avait pas, donc c'est un film en demi-teinte et ambigu qui lui correspond bien. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que le Robert Durst, donc le vrai personnage, a aimé le film, et donc a proposé à Andrew Jarecki de faire un documentaire sur lui. En tout cas, ils se sont entendus pour que Andrew Jarecki fasse un documentaire sur lui.
C'est tellement le cliché qui est dit dans Calcul meurtrier, les psychopathes, ils veulent toujours être chopés. Donc
ouais, non, mais c'est ça.
Le mec veut faire un documentaire sur lui.
Et donc, effectivement, le réalisateur du film, 5 ans après le Love and Secrets, fait un documentaire sur ce type. Et en fait, au moment où il le laisse à un moment donné seul dans une salle, la caméra et le micro sont encore ouverts. Et là, le tueur finit par se parler à lui-même et dire que oui, bah évidemment que je les ai tous tués.
Oh la vache.
Et donc en fait, 5 ans après la sortie du film, et ben en fait, il avoue son meurtre en fait, et c'est là enfin qu'il est arrêté. Donc le film a une histoire très intéressante, mais voilà, en tant que film, lui ne l'est pas tellement, mais par contre l'anecdote qui est autour, elle est incroyable.
Tu veux dire que grâce à Ryan, on a arrêté un serial killer ?
Bah quelque part un petit peu, ouais, c'est un peu
beau,
fou
quand même.
Et par contre aussi, peut-être l'un des plus gros plantages de la carrière de Ryan Gosling, je pense, parce que quand même avec un budget de 60 millions. Les recettes se sont élevées à 1,8 de millions, donc vraiment.
Après, je crois que dans beaucoup de pays, il est sorti en direct ou VOD, en direct ou vidéo, et ouais. Chez nous notamment, ça a été le cas. Il n'est pas sorti en salle en France.
Voilà, donc vraiment plus marquant pour l'anecdote que pour autre chose.
Et enfin, je pense que de toute façon, il faut s'arrêter sur ce film-là parce que c'est de toute façon le film majeur dans sa carrière. C'est évidemment Drive. Et quand Drive arrive, ça permet vraiment de. Enfin, ça l'impose. De toute façon, l'année 2011 est une année assez particulière parce qu'on y reviendra peut-être un peu après, mais il y a Crazy Stupid Love, il y a aussi Les Marches du Pouvoir, mais il y a surtout Drive. Et avec ce trio de films-là, là, ça y est, Ryan Gosling devient la méga star qu'on n'a pas forcément vu venir. Et surtout, Drive récolte prix de la mise en scène au Festival de Cannes, alors que bon, c'était pas forcément l'évidence. Et aujourd'hui, c'est un film méga culte et c'est le rôle de sa vie, en fait.
Ouais, carrément. Alors, c'est le début de sa collaboration avec Vinnie Griffin, qui avait déjà réalisé la trilogie Pusher et Bronson. Et justement, d'ailleurs, c'est parce que Gosling aimait beaucoup ce qu'il faisait qu'il a proposé Vinnie Griffin, parce que c'est la première fois de sa carrière qu'il est suffisamment établi pour qu'on lui dise « Ok, ce sera toi le rôle principal de l'adaptation de ce roman. » Donc c'est adapté d'un roman de James Sallis sorti en 2005. Personnellement, j'ai pas du tout aimé le roman. Enfin, le film est bien supérieur. Ouais, c'est un des rares exemples où vraiment le film est très très supérieur au roman qu'il a inspiré. Et donc, le producteur arrive vers lui, sachant que le film devait être fait au départ pour beaucoup plus, un budget beaucoup plus important à l'époque où c'est Universal qui devait porter le film, et avec Hugh Jackman dans le rôle principal. Voilà, donc ça ne s'est pas fait. voulait, bref, peu importe. Le producteur Marc Platt avait une liste de gens avec qui il voulait absolument travailler dans le métier, que ce soit des acteurs, des réalisateurs, des ingé-sons, ce que tu veux. Et le premier de cette liste, c'était Ryan Gosling. Et donc, il lui dit, mec, je te veux absolument pour ce rôle, vas-y, choisis ton réalisateur. Et donc, c'est une étape importante dans une carrière, le moment où on dit à un acteur principal, vas-y, avec qui tu veux travailler, quoi. Et donc, Gosling, qui aimait le travail de Winding Refn, dit, bah, mettons ce gars-là. Et c'est là que bah, la rencontre se passe plutôt mal.
Quelle idée. Quelle idée.
Parce que donc, ils décident de se faire un petit dîner aux chandelles, tous les deux. Et en fait, Refn a la grippe. À ce moment-là, il se sent mal. Et en fait, il dit rien de tout le dîner. Et genre, c'est très gênant. Et Ryan Gosling sait plus où se mettre parce que genre, juste, c'est super awkward.
J'imagine
comme vous pouvez
tellement
vous
imaginer. La scène, en plus. Ça doit être horrible. C'est déjà Winding Refn en interview. T'es déjà à cringer en perma. Donc, ouais. Je me dis, avec un truc comme ça aussi important, ça doit être horrible.
Et donc, la suite de cette belle histoire, c'est que bon, bah, Gosling, malgré tout, beau joueur, décide de le ramener en voiture, l'autre qui est malade. Et sûrement pour tromper le silence, bah, il met la radio. Et à la radio passe la chanson Can't Fight This Feeling de Aereo Speedwagon. Et là, gênance ultime, Refn se met à pleurer. En disant qu'en fait, c'est tellement comme ça qu'il imagine le film. C'est vraiment un mec qui conduit dans Los Angeles la nuit en écoutant de la musique pop. Et là, Ryan Gosling se dit en fait, ah ouais, de ouf.
Pendant qu'il ne parlait pas, il réfléchissait au film, en fait.
Voilà. Et donc, bah, finalement, ça s'est fait. Et donc, ouais, étape... Enfin, avant de dérouler tout mon programme, peut-être je vous laisse...
Non, mais tu vois, c'est vraiment passionnant que tu dis ça, parce qu'en plus, c'est un peu ce qu'on retient de Drive. C'est le côté néon qui, en plus... Enfin, beaucoup de cinéastes ont réutilisé derrière, mais qui là marche particulièrement bien, parce qu'il y a vraiment ce truc où, moi, le générique d'intro, où il choisit en plus très malinement de laisser la caméra toujours dans la voiture et pas à l'extérieur, avec la musique de Kavinsky, Night Call, qu'on aime
incroyable.
Tous depuis,
bah oui.
et de filmer ce personnage-là dans la nuit, avec cette tristesse dans son regard et ce côté ultra mutique. Tout de suite, il y a un truc qui se passe. Moi, je me souviens que j'y suis vraiment allé à l'aveugle quand je l'avais découvert. Et avec une très légère crainte, parce que j'allais rarement voir des films aussi violents, parce qu'il y avait l'interdiction moins de 12 ans qui me faisait un peu peur. Et au début, je suis tellement pris par l'énergie du truc, par la scène d'intro où tout se joue par la radio et comment il sait que il y a le match de basket et qu'il l'écoute justement pour pas se faire choper. Il y a un truc tellement fort où tout joue dans la minutie du montage et dans son regard à lui, en fait, où tu dis c'est vraiment sa gueule qui tient la scène. Je trouve qu'il y avait un truc tellement magnétique à ce moment-là, je pense que c'est vraiment le terme que beaucoup de gens avaient employé à l'époque, mais t'as tout de suite un truc vraiment magnétique qui se passe à l'écran. Et autant par l'aréal de Winding Refn que par lui, sa manière de le tenir, qui moi m'envoûte complètement.
Mais alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Winding Refn, il finit par trouver une dynamique qui est hyper intéressante où le réalisateur lui laisse faire des propositions qui vont vraiment avoir une influence forte sur la trajectoire des personnages. Ce sera aussi le cas plus tard pour Only God Forgives, mais notamment dans Drive, la scène de l'ascenseur, qui est vraiment l'une des scènes cruciales du film, mais qui est absolument incroyable, c'est lui qui a proposé que son personnage embrasse celui de Carey Mulligan parce que ça lui semblait logique. Mmh. Et pourtant, moi, dans ma vision que j'ai du film et dans ce que je trouve qu'il raconte, c'est crucial ce moment. Et je trouve ça fou que ça n'ait pas été présent à l'écriture. D'accord. Mais c'est vraiment lui qui l'a apporté, tu vois. Et donc, il y a plus qu'un travail, enfin, une simple relation de réalisateur-acteur, tu vois. Il y a vraiment un apport extrêmement important et même d'un point de vue scénaristique de sa part sur le plateau.
Ce qui amène peut-être, moi, ce qui en plus est souvent l'interprétation que beaucoup de gens ont fait de Drive, mais que je trouve assez passionnante, qui est cette idée que le personnage du driver est une forme d'abstraction, tu l'évoquais, mais en fait, Gosling lui-même dit que pour lui, c'est un personnage très différent de ses autres personnages parce qu'il ne le voit pas comme quelqu'un justement de très concret, très humain. On l'évoquait avec Blue Valentine, mais dès qu'il peut se préparer d'une manière un peu méthode, sur N'oublie jamais, il faisait lui-même les tables comme son personnage pour faire de la charpenterie, pour s'habituer aux gestes et pour se donner à fond. Quand il peut se projeter vraiment dans l'immédiateté de ce personnage-là, il le fait. Là, sur Drive, il disait qu'il y avait pas, c'était pas nécessaire parce qu'en fait, le personnage est tellement pour lui une abstraction, une sorte de rêve permanent que oui, en fait, il le voyait comme ça. Et je pense que ça a vraiment amené le côté conte de fées que tu évoquais. Où en fait, pour moi, le driver, c'est vraiment un chevalier servant avec son blason, qui est ce scorpion qu'il a sur sa veste, et justement cette place du mec qui tombe amoureux de cette femme, mais qui va pas s'imposer quand son mec qui sort de prison revient. Et c'est juste que bah, après il y a l'escalade de violence qui débarque, mais lui rentre dans l'engrenage pour la protéger, elle et son enfant, et il restera toujours en retrait de manière très asexuée. D'ailleurs, tu vois, on parlait beaucoup aussi du côté très sexuel que peuvent donner les personnages de Ryan Gosling, mais là celui-là est totalement asexué, en fait, et c'est ça qui est assez beau aussi là-dedans.
Ouais, tu disais une sorte de conte de fées, mais c'est une sorte de conte de fées de tournage aussi, d'une certaine manière. Tu dis qu'il se préparait souvent avant ses tournages, donc ouais, en effet, il a construit les tables de notebook, etc. Mais même dans Drive, au final, T'as la sensation qu'il prend possession de son personnage au fur et à mesure du tournage, parce que bah, c'est lui qui restaure plus ou moins la voiture pendant le tournage aussi. C'est lui qui fait quelques cascades. Donc il se met à la... Parce que son personnage est aussi un cascadeur, plus qu'un chauffeur. Enfin, le jour, c'est un cascadeur de cinéma, et la nuit, bah, c'est un chauffard un peu dingo.
De braquage, quoi.
De braquage, voilà. Mais hyper méticuleux.
Un peu foufou.
Un peu foufou. Le retour. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un truc vraiment très joli dans... Moi, j'avoue que j'adore le fait... J'adore la scène d'introduction. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais c'est un truc qui me reste beaucoup en tête. Mais je trouve que c'est encore plus beau quand il est dans cette sorte d'émotion avec le personnage de Carey Mulligan, mais une émotion silencieuse. Comme si il avait peur de révéler la véritable personne qu'il était, enfin ce qu'il craint véritablement.
Encore une fois, finalement encore la façade.
Mais du coup c'est, il y a une sorte, enfin il y a la scène de l'ascenseur comme tu disais qui est une beauté dans la manière dont Refn filme de ce mouvement, une grâce alors que c'est, enfin le mouvement est pas non plus dingo, mais c'est.
Puis il est pas intuitif quoi.
Ouais,
mais...
ça. Ouais. Mais il y a une grâce dans la manière dont tout d'un coup, ben le temps se ralentit, donc ben, l'image se ralentit aussi, et qu'il y a une sorte de pause par rapport ben, à cette ben, ce petit idylle amoureux éphémère, puisque juste après il va se passer quelque chose d'extrêmement violent. Et lui, je trouve vraiment bien dans ces moments-là, plus encore que dans cette capacité à être hyper millimétré par rapport à son personnage qui est très méticuleux, etc.
Et en fait, tu vois, c'est même ça moi qui me plaît, c'est que bah tu vois ce côté méticuleux là, en même temps, chez Gosling, je trouve qu'il y a ce truc là aussi de ce contrôle du corps, et on y reviendra peut-être un peu après sur l'aspect comédie, comment il peut l'aborder. Mais je trouve que dans Drive, ce que ça reflète le mieux, c'est surtout à quel point je pense qu'on s'identifie à Gosling aussi en tant que personnage, parce qu'il prend vraiment à bras le corps l'immédiateté d'une scène, et tu vois ce que t'es censé ressentir, et c'est lui qui donne le tempo. Et c'est pas si simple en fait, tu vois on en parlait dans Calcul meurtrier, où je trouve que personne n'a le bon tempo du film et le réalisateur aide clairement pas à ça. Dans Drive, ce qui est fantastique, c'est que justement quand le film se suspend dans le temps, lui il est là avec cette suspension du temps. Et enfin moi tu vois, un de mes plans préférés du film, c'est vers la fin, où justement à ce moment là en plus t'as une ambiguïté, tu sais pas trop s'il est blessé à mort ou tu sais pas trop, il est dans sa voiture et juste il cligne pas des yeux et la caméra reste en plan fixe sur lui pendant des plombes, et à ce moment là t'as un gros doute en fait, mais t'es avec lui dans l'instant jusqu'au moment où il se met à bouger en fait, et que l'action repart, et que voilà, c'est la toute fin du film. Mais il y a un truc tellement sublime là-dedans, où il embrasse ce côté très cinégénique de la séquence, et qui évidemment se reflète le mieux dans ce geste où il recule Carey Mulligan pour l'embrasser dans l'ascenseur et pour la protéger avant de taper très fortement le monsieur. Je trouve ça absolument sublime.
Mais complètement. Moi, je trouve, tu vois, que c'est vraiment un film qui illustre magnifiquement bien, je trouve, un peu le concept de volonté de puissance chez Nietzsche, tu vois, et un peu d'éternel retour, avec cette idée d'être toujours dans l'expression la plus vraie et la plus animale, ce qui est pas forcément péjoratif, mais de ton être et de ta capacité. Et c'est vraiment, tu vois, et c'est... Pour moi, c'est pas pour rien qu'il y a la chanson A Real Human Being et tout, tu vois. C'est vraiment genre, on est dans le Superman, enfin dans le surhomme un peu nietzschéen, mais pas au sens super puissant, mais au sens le plus vrai à sa nature, on va dire, même si c'est une nature un peu de psychopathe. Et où en fait, tu vois, la scène de l'ascenseur, pour moi, je la trouve magique pour ça aussi. C'est parce qu'en fait, t'as d'un côté l'amour absolu et la violence absolue, mais qui font partie d'un même mouvement et d'une même nécessité, et c'est pour ça que c'est accolé dans la scène. Et je trouve ça incroyable la manière dont c'est mis en scène. Et à la fin, justement, je trouve que c'est parce qu'il suit cette espèce de ligne de comportement qui est complètement irréaliste, mais qui est une sorte d'idéal à atteindre, qu'il est touché par la grâce et qu'à la fin il ressuscite finalement, tu vois, je trouve. Et donc effectivement, je me rappelle avoir lu une interview à l'époque de la sortie du film, où Gosling disait qu'il avait imaginé son personnage comme un prince charmant qui voulait sauver la princesse, mais qui, pas de chance, de temps en temps, se changeait en loup-garou. Et c'est vraiment un peu ce qui se passe. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est qu'il disait aussi qu'il avait l'impression que son personnage, c'était vraiment le type qui avait vu trop de films, en fait, et qui avait tourné dans trop de films, et qui finissait par devenir, tu vois, par se projeter en tant qu'amalgame de tous les personnages qu'il avait aimés à l'écran. Et c'est complètement ça, et je trouve ça fou, comme le film finit par nous faire comprendre en fait, on vit dans son rêve, plus ou moins, parce qu'en fait, il se passe des trucs absolument impossibles, comme quand il explose la tête du gars dans l'ascenseur. C'est impossible que le mec se fasse pas choper, c'est impossible qu'il lave l'ascenseur derrière. Et quand il rentre dans la caravane sur un tournage où il a sa veste qui est complètement trempée de sang, justement, peu de temps après, et que tu vois les mannequins posés sur les étagères, les têtes de mannequins, c'est la tête de Christina Hendricks, tu vois, genre avec le bout de crâne qui lui manque, ou alors à la fin, quand il met le masque du type avant d'aller tuer Nino, là, c'est le masque du gars qu'il a tué plus tôt dans le film. Enfin, c'est que des trucs où tu petit à petit, tu dis, mais en fait, le mec est complètement fou et je suis à moitié dans son imaginaire. Ouais. Et c'est, et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est parce que je trouve que depuis le début, Ryan Gosling, il a une carrière qui peut se comparer à celle de Christian Bale. Dans les types de rôles, même le type de jeu d'ailleurs, enfin, même physiquement, ils se ressemblent.
C'est sûr de Judith en In a Nutshell.
Non, mais, non, vraiment, je trouve qu'ils sont très très proches sur plein d'aspects. Et je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement complémentaire de celui d'American Psycho, qui lui aussi imagine fantasme complètement ses meurtres et qui, pour le coup, est complètement habité par le vide, alors qu'au contraire, celui de Drive, celui de Ryan Gosling, est un personnage extrêmement riche. Mais enfin voilà, je trouve ça vraiment fascinant. Je trouve que c'est un film parfait.
En tout cas, c'est cool parce qu'on a commencé par les néo-nazis pour finir sur Nietzsche. Donc je trouve qu'il y a quand même aussi un film conducteur chinois.
Ça se retrouve.
En tout cas, je pensais pas qu'on apprendrait autant de choses, y compris sur ce qu'on cherche tous chez un homme. Voilà, l'homme idéal, c'est lui. Bon, le truc, c'est qu'on vient à peine d'arriver au moment où la carrière de Ryan Gosling le fait vraiment devenir une star. Donc, ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là pour aujourd'hui. Et comme ça, on reprend cette réu la semaine prochaine pour voir si ça nous donne d'autres idées d'articles ou de vidéos. Et je me dis d'ailleurs que c'est franchement dommage parce qu'un sujet aussi riche ferait vraiment un super podcast. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'Écran Large se décide à sauter le pas. Et il faudrait surtout qu'on rappelle à nos auditeurs de s'abonner, de commenter et de mettre 5 étoiles sur leur plateforme d'écoute préférée, et on pourra au passage les remercier de nous soutenir parce que ça reste le plus important.
Mais oui.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.